Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
17h07, salut à tous, merci d'être avec nous dans l'Intégral Foot. Priorité au direct, on va tout de suite à l'Etihad Stadium. C'est la dernière journée de la Première Ligue pour savoir qui sera champion d'Angleterre. City avait l'avantage, et bien ils l'ont pris encore plus, Kevin Moran. Salut,
oui,
Kevin.
Salut Flora, salut à tous. C'est le meilleur scénario possible pour les Sky Blues. 1 minute 30 seulement après le coup d'envoi de cette bataille finale pour l'Angleterre, que Phil Foden a déjà ouvert la marque à l'Etihad Stadium face à West Ham. Il a été servi par Bernardo Silva dans l'arc de cercle devant la surface de réparation. Une frappe pied gauche qui va se nicher dans le petit filet intérieur de Areola. Ça fait donc 1-0 pour Manchester City face à West Ham.
Et pendant le même temps, Arsenal, hein, qui est toujours à 0-0 à l'Emirates face à Everton. L'équipe du jour dans l'intégrale foot, Marion Dallot, qui a l'habitude. Salut Marion.
Salut Flora, salut à tous.
Et puis un petit nouveau aussi pour nous rejoindre aujourd'hui dans l'équipe, Marion, c'est Tony Vérel qui est avec nous. Salut Tony.
Bonjour Flora, bonjour Marion, bonjour les amis.
On va suivre évidemment cette Première Ligue avec intérêt. On va aussi vous parler évidemment du multiplex de la dernière journée de Ligue 1 qui arrive ce soir à 21h. Tous les enjeux, on sera au rendez-vous. Mais on suit aussi les championnats du monde de judo avec une Française en route pour une potentielle médaille de bronze, Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour à tous.
C'est Amandine Buchard, hein, qui est sur le tatami.
Oui, elle a déjà 4 médailles de bronze en championnat du monde. Peut-être la 5e, ce serait le record pour une féminine. Amandine Buchard, elle visait l'or. Et bien, elle s'est ratée en demi-finale. Il faut qu'elle montre match. Plus de choses. Elle était en difficulté ce matin. Elle est en place de 3 face à la hongroise. Reka Pup, une combattante qu'elle a l'habitude de battre. Buchard mène 6-0 dans leur confrontation. Et l'an dernier, elle s'est déjà rencontrée à ce même stade pour un bronze mondial. 0-0 entre les deux jeunes femmes. Après 1 minute et 30 secondes dans ce combat, on s'observe. Ça y est, Buchard qui a pris la domination physique. Elle a placé son bras droit derrière la tête de son adversaire. Elle lance son mouvement favori, une roue autour des épaules. Elle met son adversaire sur la tranche. Ouazari, la Française, est devant dans cette place de 3 des moins de 52 kilos au championnat du monde de judo. Flora, elle mène dans Ouazari face à la hongroise Reka Pup.
C'est bien parti, évidemment. On va suivre ça avec toi, Morgane. Dès qu'il se passe quelque chose, évidemment, tu nous tiens au courant. On est allé à l'Etihad Stadium. On va aller aussi à l'Emirates tout de suite retrouver Edgar Grelot pour ce match si important pour les Gunners. 20 ans hein, qu'ils attendent ce titre de champion d'Angleterre. C'est mal parti, Edgar. Est-ce que dans les travées de l'Emirates, on a eu vent déjà du but de Phil Foden?
Salut Flora, salut à tous. Oui. Les visages sont fermés, hein, vraiment, dans les tribunes de l'Emirates Stadium. 9 minutes de jeu, 0-0 entre Arsenal et Everton. Mais on a l'impression qu'Everton a marqué, hein, quand on regarde les visages des supporters d'Arsenal, puisque évidemment, peu importe le score entre Arsenal et Everton, si Manchester City ne fait pas de faux pas face à West Ham, ça ne servira à rien pour Arsenal qui, pour l'instant, surdomine ce match. 90% de possession de balle sur les 9 premières minutes.
Suspense total, mais c'est vrai que c'est parti pas très bien quand même pour les Gunners. Marion, on se prend un petit coup là direct, oui, sur la tête, déjà qu'on partait un petit peu en retard.
Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. L'absence de Saka leur fait pas du bien, oui, évidemment, psychologiquement. Mais c'est surtout que face à un monstre comme Manchester City, c'est tellement, tellement compliqué. City, c'est quand même plusieurs joueurs qui peuvent
gagner. La gestion en plus de ces moments-là, ils connaissent quoi.
Absolument. Et j'allais parler aussi du fait que c'est plusieurs joueurs qui peuvent se présenter pour le Ballon d'Or. C'est l'un des meilleurs coachs du monde. C'est un budget de dingue. C'est compliqué de rivaliser face à City. Moi, j'ai l'impression quand même que Arsenal est souvent, alors l'histoire me donnera peut-être tort et j'aime pas me faire d'amis, mais l'éternel loser. Alors l'éternel loser, on met ça entre guillemets, parce que quand on se bat,
oui,
pour le titre en plein des premières ligues,
loser comme ça.
Oui, oui, c'est non, ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit je mets bien ça entre guillemets, bien évidemment, mais encore une fois, je ne sais pas si Arsenal se battra un jour pour la victoire finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si Arsenal a les épaules. Et tout simplement, est-ce que Arsenal est la meilleure équipe du monde? Parce que quand on est, évidemment, quand on gagne la Première Ligue, ça veut dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde. Je rappelle quand même qu'Arsenal face au Bayern n'a pas pesé lourd cette saison en Ligue des Champions. Et donc, si vous me demandez mon avis, très chère Flora, et je vais conclure là-dessus, je préférerais aujourd'hui que ce soit City.
Toi, tu n'es pas pour les petits clubs, hein.
Si, il y a un super collectif, mais tu as raison, c'est vrai.
Tony, tu connais toi aussi ces moments-là d'une fin de saison si intense. Tu l'as vécu aussi avec Metz. Raconte-nous quand on est dans la tête d'un joueur là.
Eh ben, c'est des moments fabuleux et qu'on vit sur le moment et différemment. En fait, quand pour en revenir à cette fin de saison qu'on a vécue nous avec Metz, c'était un coude à coude où il fallait gagner tous les matchs. Et c'est vrai que de ce que je me souviens, j'avais pas vraiment la pression. Enfin, dans mes souvenirs.
Tu la ressentais pas, ouais.
Non, même jusqu'au dernier match où à Auxerre, on fait match nul. On savait qu'un match nul nous suffisait. On a jamais eu peur. On perdait 1-0. Metz gagnait 1-0. On le savait à la mi-temps. Et à l'arrivée, je me souviens pas quand même entre potes, on s'est dit on peut tout perdre là-dessus. On avait confiance en nous. Je pense que quand t'es dans ta saison, tu te doutes pas trop. T'es une équipe comme Arsenal ou Manchester City, ce sont des joueurs qui doutent pas. Ils sont là, ils sont présents, ils jouent les coups à fond. Même si là ils sont déçus, Arsenal, je pense qu'ils pourront se dire quand même qu'ils ont fait une super saison. Je veux dire, être un loser comme Arsenal, moi j'aimerais bien. Enfin, je veux dire,
c'est un beau loser. Je suis d'accord.
Là où je te rejoins, Marion, moi aussi, je préfère que ça soit Manchester City. Mais pour d'autres raisons, puisque moi avec Arsenal, c'est vrai que je n'ai pas que des bons souvenirs.
Il y a une petite vengeance personnelle dans tout ça.
Exactement. On dira rien. Non. Ça reste entre nous, bien sûr. Mais
personne nous écoute, tu sais, Anthony, sur AMC. T'inquiète pas.
Bien sûr.
On va vivre. C'est que le début, en tout cas, de ce multiplex de la dernière journée de Premier League. Seulement 10 minutes, on vous le rappelle. Donc City qui mène 1-0 face à West Ham.
Et quel but
de Phil Foden, on le rappelle, élu meilleur joueur de la saison aussi en Premier League. Quelle saison il fait. Des nouvelles d'Amandine Buchard, notre française, dans son combat pour la troisième place, Morgane Maury, au championnat
du monde. Elle est agenouillée sur le tapis, elle pleure, elle est médaille de bronze, Amandine Buchard, sa cinquième médaille de bronze mondiale. C'était pas du grand Buchard, mais c'est une médaille de bronze mondiale, une nouvelle pour elle. Sa mission est accomplie, elle rêvait du titre pour avoir son portrait à l'INSEP. Elle a raté la marche en demi-finale. Et clairement, médaille de bronze pour elle, première médaille pour la délégation française. Amandine Buchard, on la retrouve le 28 juillet pour sa journée olympique au Grand Palais éphémère pour aller chercher cet or olympique. Médaille de bronze Amandine Buchard en moins de 52 kilos dans ses championnats du monde de judo. Victoire par Wazari sur la hongroise Récapup.
C'est bien parti pour nos Français. Merci beaucoup Morgane. On vous rappelle aussi que la roue RMC est de retour. Chaque jour, vous allez pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros dès que vous entendez cette alerte. Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant ROUE, R-O-U-E, par SMS au 732-16. Et restez bien à l'écoute d'RMC, hein, l'alerte peut tomber à n'importe quel moment. Allez, 17h14 sur RMC, on revient tout de suite pour la suite de ce multiplex décisif pour le titre en Premier League. Manchester City est toujours devant pour le moment. A tout de suite dans l'intégral foot sur RMC.
Intégral Foot.
Florent aussi.
À 17h18, on est de retour dans l'intégral foot sur AMC avec Marion Hédalo, avec Tony Vérel. On va vous parler Ligue 1 évidemment dans quelques instants avec le multiplex de la dernière journée. C'est ce soir à 21h. Mais d'abord, la Première Ligue, le dénouement de cette folle saison pour savoir qui sera champion d'Angleterre entre Manchester City et Arsenal. Un duel à distance pour le moment remporté par les Citizens. On suit tout ça avec Kevin Morand.
Oui, 16e minute de jeu à l'Etihad, 1-0 donc pour Manchester City, pardon.
Ah, le lapsus. United, ils sont très très loin.
Le but de Phil Foden à la 2e minute seulement, après 1:30 de jeu. Phil Foden servi à l'entrée de la surface, et là Areola a du travail dans ce début de match. Il a déjà fait son 3e arrêt face à Doku, le 4e à l'instant, face toujours au jeune attaquant belge, l'ancien Rennais. Il y a un gros début de match, un gros premier quart d'heure de Manchester City. On sent qu'ils ont envie d'aller chercher, de mettre toutes leurs chances de leur côté pour aller décrocher ce 4e titre de suite. Ce serait historique évidemment dans l'histoire du championnat de première division en Angleterre. Et donc Doku là, qui est titulaire aujourd'hui alors qu'il avait été sur le banc lors des 3 derniers matchs, cette fois il est donc titulaire à la place de Kovacic, qui avait lui joué les 3 dernières rencontres. C'est un choix de Pep Guardiola, choix offensif pour cette dernière journée face à un West Ham qui, on le rappelle, n'a rien à jouer, son 9e, est sûr de terminer à cette position à la fin de la saison.
Ah, c'est ça la force aussi de Manchester City, c'est que Jérémy Doku n'est pas un titulaire effectivement à City alors qui fait une énorme saison, encore une énorme occasion là, pour les Citizens. Ça ne va pas se terminer à 1-0, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour Arsenal face à Everton, Edgar?
19 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Arsenal et Everton. Énorme occasion, coup sur coup pour Arsenal. Everton assez miraculé dans le début de match, mais attention là, ils sont dangereux, la récupération de la balle de Gabriel. Arsenal qui va pouvoir partir en contre-attaque doucement. Arsenal qui domine, mais Arsenal, surtout ses supporters hein, qui ont l'impression déjà d'être menés. On voit les visages dans le stade, c'est compliqué. Arsenal sans Bukayo Saka, on le rappelle, qui est blessé légèrement, blessé musculairement. Et là, c'est Ganagay, l'ancien parisien, qui est au sol. Il va être soigné peut-être par le corps médical. 0-0 toujours entre Arsenal et Everton.
Ouais, c'est dur aussi pour Arsenal dès qu'on est privé de la star principale, oui, qui est Bukayo Saka. Ils ont vraiment Alors même s'il y a beaucoup de buteurs différents aussi cette saison chez les Gunners, il y a une vraie dépendance qui s'est créée aussi autour de Bukayo Saka et c'est dur pour eux d'avoir cette absence-là lors du dernier match si décisif.
Oui, c'est dur et puis c'est dur psychologiquement aussi quand ça fait longtemps que qu'on attend ça.
Et puis ils n'ont pas le même banc. Hein. C'est sûr que par rapport à Manchester City, quand tu vois les joueurs qu'il y a.
Le deuxième but, le doublé pour le jeune milieu anglais qui vient offrir là certainement ce titre à Manchester City. Son 19e but de la saison pour celui qui a été élu hier meilleur joueur de la saison en Première Ligue. 2-0 donc déjà pour Manchester City face à West Ham après 19 minutes de jeu seulement. Pep Guardiola avait dit hier qu'il rêvait d'un scénario où City menait 3-0 après 10 minutes. On n'y est pas tout à fait, mais bon, c'est déjà très bien pour les Citizens qui vont sans doute s'offrir donc ce quatrième titre de suite en Première Ligue.
Ouais, c'est, je pense qu'ici il y a
déjà deux personnes de contentes.
Ouais, Tony, Marion, c'est bon, vous êtes contents. Non, mais c'est vrai que tu parlais avec raison d'ailleurs, Tony, hein, de ce banc d'Arsenal qui sans doute leur a fait aussi peut-être défaut cette saison. On reviendra avec Edgar sur peut-être le moment où Arsenal a perdu ce titre de champion, mais c'est vrai que la force de City aussi cette saison, comme les précédentes d'ailleurs, c'est cet effectif pléthorique pour Pep Guardiola.
Bien sûr, et en plus il sait faire tourner son équipe, parce que souvent on dit il y a un banc, comme à un moment donné il y en avait au PSG, à Barcelone, mais on voyait toujours la même équipe alignée, alors que là on se rend compte qu'il fait tourner son équipe, que ça soit Jack Grealish, que ça soit Alvarez, même s'il joue un peu moins, mais ce sont des joueurs qui sont utilisés et qui, quand ils rentrent, ils font la différence. Et on sent qu'il n'y a pas d'animosité, même s'il doit en avoir. On a tous envie de jouer, bien sûr, titulaire. Mais je pense qu'il a réussi à créer quelque chose. Et quand les joueurs rentrent, t'as l'impression que là, regarde, même au niveau du gardien, le dernier match où le gardien brésilien est sorti. Son remplaçant est rentré, il a fait un match extraordinaire. Ouais. Il t'a sorti des trucs de fou. Ça m'impressionne parce que je me dis, les mecs, ils sont tous motivés de la même façon. Et ça, c'est quand tu arrives à créer ça dans un groupe, et surtout quand tu as la chance d'avoir autant de bons joueurs, tu réussis à gagner 4 années de suite le titre. Quoi.
Ouais, et ça, c'est quand même une performance qu'on a peut-être tendance à banaliser. Il faut quand même s'en rendre compte. Tu parlais de la concurrence du niveau de la Première Ligue, tout à l'heure, qui est un des meilleurs championnats au monde, gagner 4 fois de suite cette Première Ligue, chose qu'aucune autre équipe, et pourtant il y en a eu des grosses équipes de Première Ligue, des décennies qui se sont perpétrées. Là, c'est vrai que on a l'impression que cette équipe de Manchester City, sous la coupe de Pep Guardiola, va clairement marquer l'histoire du championnat anglais.
Elle a un côté invulnérable, en fait, cette équipe. Moi, je trouve qu'elle a... Alors, effectivement, en Ligue des Champions, c'est pas passé si loin que ça, cette saison. Mais on sait l'importance aussi de la Première Ligue pour les Anglais. C'est-à-dire que gagner la Première Ligue, c'est bien plus fort que même la Ligue des Champions. Ouais. C'est quelque chose d'important. On sait que, oui, c'est un marathon. C'est des très grosses rencontres quasi tous les week-ends. Ouais. Donc, on sait quand même le niveau d'exigence. Tu disais l'un des meilleurs championnats. Moi, pour moi, c'est évidemment le meilleur. Et c'est pour ça que j'ai dit en préambule tout à l'heure, sans avoir de mépris pour Arsenal du tout, mais quand on représente la Première Ligue, je ne vois pas, encore une fois, Arsenal finir premier, parce que quand on est premier en Première Ligue, ça veut dire pratiquement qu'on est premier sur toute l'Europe et dans le monde entier. Et là, quand on regarde à chaque poste, c'est monstrueux. Tony vient de le dire, un banc, mais qui est d'un luxe, si je puis dire, pour Guardiola, extraordinaire. Et Guardiola lui-même, qui arrive quand même avec, pour beaucoup, il est le meilleur coach du monde. Pas loin, évidemment, de d'Ancelotti, Klopp n'est pas loin, Zidane aussi, mais on sait que Guardiola, là, en ce moment, a vraiment, il marche sur l'eau. Et il a les possibilités de marcher sur l'eau.
Ouais. Flora, juste, ce serait le 6e titre en 7 ans avec Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, sur 10 en tout dans l'histoire de Manchester City. Donc évidemment, on mesure l'importance de ce qu'a réalisé Pep Guardiola sur le banc. Et surtout, ils ont l'expérience aussi de la gestion de ces fins de saison.
Ces dernières journées.
Au Cordeau, il y avait eu 2012. Alors, c'était pas Pep Guardiola, mais ça s'était joué contre QPR face à United avec un but à la 93e minute d'Aguero, évidemment, sans souci. En 2014 aussi, en 2019, ça s'était joué à la dernière journée contre Liverpool. Et puis en 2022, il y avait eu ce scénario fou où Manchester City était mené 2-0 par Aston Villa qui, comme West Ham ce soir, cet après-midi, n'avait rien à jouer. Et pourtant, eh bien, ils avaient renversé le scénario en 3 minutes, les Citizens, pour s'imposer et pour prendre le titre. titre d'un petit point seulement devant Liverpool.
Jérémy Doku, il est chaud. Hein.
Ah, il est très chaud.
On peut miser sur un petit but de Jérémy Doku avant la fin du match. Un petit mot quand même sur les autres matchs, parce qu'il y a, évidemment, on suit aussi la dernière de Jürgen Klopp à Liverpool. Il y a eu un magnifique tifo à Anfield pour la dernière de Klopp qui reçoit Wolverhampton. Aujourd'hui, toujours 0-0 entre les deux équipes. Ça aussi, Tony, le départ de Jürgen Klopp de Liverpool, c'est un moment important. C'est un vrai personnage de cette première ligue, Jürgen Klopp, qui va manquer à Liverpool, mais à nous tous aussi, quelque part.
Bien sûr, c'est des entraîneurs comme on aime les voir, et j'entendais tout à l'heure Sébastien Piocelle qui en parlait, et c'est vrai que c'est, il dégage une certaine sympathie en plus, ce sont des entraîneurs qu'on aurait aimé avoir en tant que joueur. Je sais pas si ça aurait été vraiment le cas, mais c'est vrai que souvent
il y a beaucoup d'anciens joueurs. Manu Petit nous disait ça sur le plateau de la Première Ligue, tout le temps il nous disait j'aurais adoré avoir été entraîné par Jürgen Klopp. C'est ton cas aussi, toi?
Ah oui, non, mais c'est parce qu'il dégage ça, en fait. Il dégage une certaine complicité avec ses joueurs. On a l'impression qu'il y a beaucoup de respect mutuel, et ça c'est hyper important pour un joueur, que ton coach te donne envie de se battre pour lui. Moi, c'est dans ma carrière, j'en ai pas connu des tonnes comme ça. Donc quand on a un, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils durent si longtemps, ces coachs, c'est parce que derrière tu peux pas faire l'unanimité, tu peux pas être aimé par tout le monde. D'ailleurs t'as un groupe de 25 joueurs, bien souvent c'est les 11 titulaires qui aiment leur coach, les autres c'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
Oui.
C'est, si t'arrives à créer quand même ça, à dire à tes joueurs qui jouent un peu moins, mais on a besoin de toi, c'est un groupe, quand tu vas rentrer tu vas faire la différence, et vraiment les amener dans ce même registre que les titulaires en puissance, là t'as tout gagné, quoi. Et ça, moi je dois dire, j'en ai pas rencontré des tonnes dans ma carrière, et ce genre d'entraîneur, c'est pour ça qu'il dure, c'est parce qu'il crée ce lien avec les joueurs, où le mec, quand il est sur le terrain, il a envie de tout démonter pour son coach, quoi.
De se battre pour lui, effectivement. 0-0 donc toujours entre Liverpool et Wolverhampton. Autre enjeu aussi moindre, Chelsea est toujours accroché à la 6e place, les Blues qui mènent 1-0 qui mènent face à Bournemouth grâce à un but de Caicedo. L'enjeu pour Manchester United, il est en train de couler, hein. Manchester United qui sera sans doute pas en Europe la saison prochaine, puisque Newcastle, qui est accroché à la 7e place, mène 1-0 face à Brentford. 17h27 sur RMC, on revient dans quelques instants dans l'intégral foot pour la suite évidemment de ce multiplex de Première Ligue, et puis on va parler Ligue 1 aussi avec les enjeux du soir pour la dernière journée. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
17h32, on est de retour sur RMC dans l'Intégral Foot avec Marion Hidalgo, avec Tony Vérel. On suit le multiplex de la dernière journée de Première Ligue avec City qui est bien parti pour être champion, Kevin.
Ouais, 2-0 après une demi-heure de jeu à l'Etihad.
Tu t'avances déjà sur le 3-0, toi.
Grand ciel bleu donc sur l'Etihad et sur l'Angleterre avec Erling Haaland. Là, la frappe et l'arrêt d'Areola. Il a du travail, le gardien français sélectionné par Didier Deschamps cette semaine. Il a déjà 11 tirs cadrés à repousser. Il y a eu il y a quelques instants la frappe de Kevin De Bruyne aussi. Erling Haaland, il a manqué aussi tout à l'heure une énorme occasion servie par Rúben Dias devant le but. Il était tout seul, Erling Haaland, mais en position un peu délicate pour reprendre le ballon, c'était passé à côté. En tout cas, ça fait 2-0 donc après 31 minutes de jeu à l'Etihad Stadium pour Manchester City face à West Ham. Un doublé du petit prince de l'Etihad, Phil Foden, pour l'instant offrir ce 10e titre de l'histoire à Manchester City.
Pendant ce temps-là, c'est dur du coup pour Arsenal qui est opposé à Everton, Edgar, et qui a eu une belle opportunité pour prendre les devants.
Oui, 0-0, 33e minute. Everton qui a touché le poteau par l'intermédiaire de Calvert-Lewin. Il touche le poteau, après il reprend et ça file dans le petit filet de David Raya. C'était très chaud pour Arsenal qui domine quand même cette partie à l'image de cette offensive avec peut-être le centre. Globalement, c'est de l'attaque-défense. Et ensuite, Everton qui arrive quand même bien à se ressortir de temps en temps pour se montrer dangereux, mais pour l'instant ce n'est pas une belle soirée pour Arsenal avec cette victoire de Manchester City. 0-0 entre Arsenal et Everton, 33 minutes de jeu.
Toujours 0-0 entre Liverpool et Wolverhampton, 0-0 aussi entre Brighton et Manchester United, Chelsea qui mène 1-0 face à Bournemouth et Newcastle qui mène aussi 1-0 sur la pelouse de Brentford. Voilà en gros pour les résultats. Tottenham aussi qui mène 1-0 face à Sheffield. Le dénouement de la saison de Ligue 1 maintenant, c'est ce soir à 21h, un multiplex exceptionnel pour conclure la saison. Ce sera évidemment à suivre sur RMC dès 20h dans l'After Live avec Jean-Louis Tour. pas de suspense hein, comme en Première Ligue pour le titre de champion. On le sait, Paris était titré déjà depuis plusieurs journées. Monaco a déjà aussi assuré sa deuxième place. En revanche, on ne sait pas qui complétera le podium, Lille ou Brest. C'est l'un des enjeux de cette dernière journée. Le LOSC reçoit Nice et Brest se déplace à Toulouse. Pour le moment, Lille est en bonne position à la différence de but devant Brest. Autant dire que ça ne se joue à rien. Salut Jean Baumel.
Salut Flora. Salut Marion. Salut Tony.
Salut.
Alors quoi qu'il arrive, Gibo s'est acté depuis le week-end dernier. Lille sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais cette place sur le podium, c'est aussi un enjeu à aller chercher pour le LOSC.
Ah oui. Ah oui, c'est important dans le sens où t'as pas de barrage. On sait que c'est toujours délicat. Il y a deux tours à passer au mois d'août. En plus, le premier tour, si Lille était quatrième, ça serait pas au stade Pierre Mauroy puisqu'il est utilisé pour les Jeux Olympiques avec le handball et le basket. Donc il faudrait, on parle de Valenciennes éventuellement. Hein, je vois pas trop Lens prêter son stade comme ça s'est fait par le passé. Mais c'est 25 000 places à Valenciennes, mais qui malheureusement pour eux d'ailleurs descendent en national. Oui, donc c'est, enfin voilà, c'est un élément en plus. Je parle du stade, mais il y a le voilà l'incertitude avec Fonseca, l'incertitude de l'effectif. Alors si t'es en barrage, c'est très très compliqué de construire ton groupe pour la saison prochaine. Donc voilà, Lille est en bonne position. Lille joue Nice qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Lille est en position de force entre guillemets puisqu'à domicile, on va le rappeler, il y a que deux défaites cette saison. La dernière, c'était contre Lyon, un match spectaculaire où ils ont à un moment mené 3-2 à la 85e et puis au final ils se sont écroulés avec deux buts encaissés. Voilà, Lille c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe à domicile. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'éléments qui font que le LOSC est favori pour finir troisième. En tout cas, il y aura pas d'excuse si ils n'arrivent pas à faire le boulot et s'ils se font dépasser par Brest.
Ça fait plaisir. Ah, ça.
Mais,
ouais, Tony, vas-y.
Je me permets, mais même si c'est extraordinaire pour Lille ou Brest de faire le tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais c'est sûr qu'il n'y a pas photo entre une place qualificative directement. Moi, j'ai eu la malchance de le vivre avec Lyon. On a été qualifié pour le tour préliminaire, mais tu sais très bien que quand tu prépares ta saison, tu as des recrues, des joueurs qui ne sont pas encore dans le collectif. On avait perdu à l'époque contre Maribor, une équipe qui était largement prenable, mais parce qu'on n'était pas encore prêt. Et à l'arrivée, on a loupé la Ligue des Champions. Et donc personne n'a envie de cette quatrième place. Enfin, quand je dis personne n'a envie, entre Lille et Brest.
Oui, entre les deux qui sont sûrs de jouer la Ligue des Champions, quitte à choisir, on préfère y aller
exactement,
direct.
Tu veux à tout prix. Alors Brest, c'est en plus eux, ça serait, ils vont avoir un petit peu les boules parce que derrière, ils ont quasiment fait tout le championnat dans les trois premières places et là, ils vont se retrouver quatrième. Ils se sont retrouvés d'ailleurs quatrième.
Lille, c'est la première fois cette saison qu'ils sont troisième, hein, Tony.
Bah oui, c'est ça, fou.
Pour eux, c'est inattendu. Alors que Brest, c'est vrai que là, ils auraient de quoi avoir un petit peu la rage, on va dire.
De terminer au pied de ce podium. Mais exactement. Quoi qu'il arrive, ça restera une saison effectivement réussie pour les Brestois. Je vais pas te lancer dessus.
Silence-moi, c'est trop simple. Flora, s'il te plaît.
Est-ce que tu les vois aller chipper cette troisième place à Lille des Brestois?
J'espère pas. Ouais, je n'espère pas. Je pense qu'ils ont fait une saison absolument magnifique, Brest. Mais Tony l'a dit en plus, là, en préambule sur Lyon. Lyon ou Lille, c'est des équipes qui devaient, ou qui, si je puis dire, être en Ligue des Champions.
Programmées
pour ça, parce qu'il y a une construction, parce qu'il y a une réflexion. Brest, c'est une surprise. C'est une très belle surprise. Mais je pense que c'est trop fragile. C'est pas assez exigeant. Je parle sur la longueur. Attention, encore une fois, qu'on me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais vraiment, encore une fois, le travail d'Éric Roy est remarquable. Mais je pense que Lille, depuis de nombreuses saisons, travaille, vend des joueurs à un super centre de formation, progresse et c'est un super collectif. Le travail de Fonseca, on a compris qu'il serait sans doute pas là la saison prochaine, mais enfin, en tout cas, j'aimerais, en tout cas aussi pour l'image de la Ligue 1 à l'étranger, le PSG c'est très bien, Monaco super. Lille, ça serait quand même mieux, à mon avis, pour nous.
Et les points UEFA, évidemment, aussi. On y pense. Gibo, justement, on encense les Lillois. C'est vrai qu'il y a une certaine régularité quand même du LOSC cette saison, ces dernières saisons sur la scène européenne, mais aussi en Ligue 1, trois fois sur le podium sur les six dernières années. Il faut aussi le souligner. Marion en parlait rapidement. La suite maintenant pour les Lillois, ce sera donc sans Paolo Fonseca qui va partir. Un potentiel quatrième entraîneur en trois ans, quand même. Ça fait beaucoup.
C'est vrai qu'il a un contrat de deux ans, donc il est libre à l'issue du championnat. Donc il y aura encore des discussions cette semaine avec Olivier Létan, le président, mais c'est vrai qu'on sait que l'AC Milan s'intéresse à lui. Il y a Marseille qui aimerait aussi l'attirer. Marseille qui aura
certainement pas de Coupe d'Europe. Hein.
Ouais.
Il y a encore une possibilité, mais il faudrait que tous les vents soient dans le bon sens pour les Olympiens. Mais c'est vrai que, voilà, il l'a dit hier en conférence de presse, il pense aussi à sa carrière. Et c'est vrai que finir troisième avec Lille, est-ce qu'il pourra faire mieux la saison prochaine? Ça, c'est la grande question.
Et l'ouverture du score pour Everton à la 40e minute. Ça fait 1-0 pour Everton sur la pelouse d'Arsenal. Le but magnifique d'Idrissa Gueye, l'ancien parisien, sur coup franc. Elle est partie dans la lucarne. Ça fait 1-0. Une nouvelle douche froide pour les supporters des Gunners. 1-0 pour Everton sur la pelouse d'Arsenal, 40e minute.
Alors, ça ne change pas grand chose dans les
faits. Il y aura moins de regrets.
Voilà, exactement. Puisque Manchester City mène toujours 2-0, on vous le rappelle. Et du coup, bah, Manchester City est bien parti pour être champion. On était avec toi, Gibo, pour parler de l'avenir des Lillois, sans Paolo Fonseca, donc a priori. Dans les
c'est petits, la grosse tendance, oui.
Ouais, dans les petits papiers lillois, est-ce qu'on a déjà anticipé? J'imagine que oui. Quelle pourrait être la suite?
Bah, en fait, on n'a pas beaucoup de noms. Alors, sans avoir d'infos, il y a le nom de Bruno Genesio qui revient de temps en temps. Hein, il a connu la Ligue des Champions avec Lyon. Il sait ce que c'est d'entraîner un club important. Il a été à Rennes. Il a fait de bonnes choses. Après, c'est vrai que ça s'est terminé cette saison, mais. Voilà, c'est un nom qui circule, mais pour l'instant, tant que c'est pas acté, je pense que du côté lillois, on a encore un peu d'espoir de faire prolonger Paulo Fonseca, même si voilà, on a compris qu'il y a là, il y a quand même l'aspect familial, il doit discuter avec son agent. Il a répété beaucoup hier l'aspect familial et son entourage. Donc voilà, et le fait de je pense qu'il a envie de jouer des titres. L'AC Milan, par exemple, c'est un club qui va jouer la Ligue des Champions.
Refuser, ouais.
Voilà. Et puis voilà, comme je vous le disais, troisième avec Lille cette saison, faire mieux l'année prochaine, ça paraît compliqué parce qu'il y aura des départs. On sait que dans un an, Angel Gomez, Lenny Yoro et Jonathan David seront libres. Donc, on peut imaginer que les trois partent, à moins qu'il y ait une prolongation. Enfin, en tout cas, c'est la tendance. Donc, déjà, il faudrait remplacer trois joueurs importants. Mais lui, il veut aussi se renforcer parce que il n'y a pas envie de faire la Ligue des Champions en figuration. C'est quelqu'un qui veut, peser dans les compétitions qu'il dispute. Donc il faudra se renforcer. Lui, il voudrait un club de Lille qui se renforce énormément, parce que Lille a les moyens d'aller chercher des joueurs importants, sachant qu'on sait que Lille l'année prochaine sera en Ligue des Champions. Mais est-ce qu'ils seront capables de viser encore la Ligue des Champions pour une qualification successive? C'est pas sûr, donc c'est très compliqué. Lui, en tout cas, on sait qu'il a de l'ambition et ça se comprend, parce que vu le jeu développé par Lille cette saison depuis deux ans, ça donne envie à d'autres clubs de faire la même chose à un niveau supérieur.
Beaucoup d'incertitudes, effectivement. Ouais, tu restes avec nous, Gibon, on va parler de Lens aussi avec toi dans quelques instants. Avec Tony aussi, ça nous intéresse d'avoir ton avis, évidemment. Et puis ce Lille-Nice, évidemment, à suivre ce soir dès 21h dans le multiplex sur RMC. Notamment, ça a bougé un petit peu en Première Ligue. Arsenal qui est donc mené par Everton 1-0. City mène toujours 2-0 face à West Ham. Et donc du coup, City est bien parti pour être titré. Liverpool mène 2-0 maintenant face à Wolverhampton. Voilà, notamment pour les résultats. Chelsea qui mène toujours 1-0. 0-0 entre Brighton et Manchester United. 17h42 sur RMC. On revient tout de suite dans l'Intégral Foot.
Intégral Foot.
Flora Moussi.
17h45 tout pile sur RMC. On est de retour dans l'Intégral Foot avec Marion Adalo, avec Tony Vérel. On suit le multiplex de la dernière journée de Première Ligue avant de s'intéresser à celui de la Ligue 1 ce soir. Ça a bougé avec l'égalisation d'Arsenal, Edgar, face à Everton.
La 45e minute et ça fait un partout entre Arsenal et Everton. Odegaard qui déborde, qui met le ballon en retrait et le but derrière de l'international japonais Tomiyasu. Un partout, son deuxième but cette saison. Arsenal qui prend le sourire.
Ah ben oui, parce que dans le même temps, West Ham a réduit l'écart face à Manchester City, Kevin.
Et oui, si le titre d'Angleterre n'était pas joué, 42e minute de jeu, West Ham qui réduit l'écart avec ce magnifique but de Mohamed Kudus, un retourné après un corner au deuxième poteau. L'attaquant ghanéen qui vient prendre le dessus sur Gvardiol et tromper donc le gardien Citizen Ortega. Ça fait 2-1 donc pour Manchester City, toujours à la 43e ici à l'Etihad Stadium.
Et on va rappeler que en cas d'un match nul entre Manchester City et West Ham et que Arsenal s'impose dans le même temps Everton, Arsenal sera titré champion d'Angleterre. Donc absolument. comme quoi
le suspense
revient un petit peu. On s'approche de la pause en Première Ligue. Il y a du suspense aussi en Ligue 1 ce soir pour les places européennes, notamment à savoir qui va terminer à la 6e place. Pour le moment, c'est Lens qui est bien accroché. C'est pour ça que Gibo est toujours avec nous. T'es toujours là, Gibo?
Bien sûr,
évidemment. On va parler de Lens, ça va faire plaisir.
Parler de Lens avec Tony, c'est le top.
C'est pas la classe.
Pourvu que ça
Lens bien accroché à cette sixième place, Jibo, mais c'est vrai que cette fin de saison, elle est un peu difficile. Hein. Elle est très très lente pour les Lensois. Hein.
Ah bah c'était une saison éprouvante. Francaise l'a dit à plusieurs fois, les joueurs aussi, parce qu'ils ont eu des moments des hauts et des bas. Un début de saison où la cinquième journée, ils étaient derniers. Ils ont enchaîné avec la Ligue des Champions qui les a reboostés. Quand même 8 points de prix, c'est en Ligue des Champions, c'est autant que le PSG, mais ils ont basculé en Europa League et c'est vrai qu'il y a un peu de déception par rapport à l'élimination face à Fribourg, mais en championnat ils s'étaient refait la cerise et ça a calé un petit peu en fin de saison et heureusement pour les Lensois parce que derrière ça n'a pas suivi. Marseille, Rennes ou même Reims n'ont pas réussi à en profiter pour passer devant les Lensois. C'est Lyon qui est revenu très fort et le concurrent direct pour les Lensois c'est l'Olympique Lyonnais qui aura aussi la finale de la Coupe de France. Donc voilà, un petit point suffirait pour les Lensois, au moins pour écarter Marseille. Ils pourraient se faire dévancer par les Lyonnais, mais quoi qu'il arrive, il y aurait une place en Coupe d'Europe en fonction du scénario. Ça serait Conférence League ou Europa League. Mais bon, là ce soir, l'objectif c'est de gagner contre Montpellier qui est fortement diminué. La dernière fête
surtout
à Bollard.
À domicile.
Voilà, bon, la dernière à Bollard, encore à guichet fermé. Il y a eu quand même des petites infos dernièrement qui sont pas très positives. Brice Samba qui est blessé, donc c'est Jean-Louis Leca qui a annoncé sa retraite vendredi, donc ça sera son dernier match.
Ce serait
beau de voir Jean-Louis Leca qui est presque plus nordiste que corse, parce que avec tout ce qu'il a passé comme temps à Valenciennes et à Lens, il se considère d'ailleurs en partie ch'ti et qui va intégrer d'ailleurs le staff lensois la saison prochaine. Donc voilà un élément important. Un autre aussi, là, c'est moins drôle, c'est Kevin Danso, oui, qui a demandé au coach Francaise de ne pas jouer sous la pression de la sélection autrichienne, avec Ralf Rangnick, donc le coach allemand de l'Autriche, qui est dans le groupe de la France, hein, et avec les Pays-Bas. Ouais. Entre autres et la Pologne, et c'était hors de question quoi de ne pas jouer ce match important. Lui il est apte physiquement, il était touché à la cuisse lors du match précédent, mais il est apte et donc il a été écarté du groupe. Et donc c'est Kouchanov qui va jouer, hein, l'Ouzbek. Et là c'est vrai que, et en plus Kevin Danso qui fera certainement partie des, voilà, il a un bon de sortie, on s'attend à ce qu'il soit transféré à l'intersaison. Ouais, c'est un peu dommage parce qu'en plus c'est vraiment quelqu'un de vraiment un très bon joueur, un très bon mec dans l'état d'esprit. Et c'est un peu dommage, ça se termine comme ça. Écoute, c'est le foot. Mais en tout cas, pas de place à ce genre de situation parce que c'est la porte ouverte à tout. Et on comprend l'attitude du Racing Club de Lens.
C'est dommage parce qu'il a voulu certainement être franc et dire les choses, dire la vérité, parce qu'il aurait pu aussi simuler une blessure.
Prétendre pour blessé, pas jouer,
voilà. Je veux dire, il a voulu être franc, mais c'est vrai que on peut pas accepter ce genre
c'est compliqué.
Il y a de l'enjeu surtout en plus, hein, c'est ça.
Bien sûr,
limite, bon,
s'il
n'y avait plus rien à jouer,
je ne jouais plus rien, oui.
Voilà, bon, c'était différent, mais là. C'est bizarre, mais comme tu dis, je pense que comme c'est quelqu'un de bien, il a voulu être
honnête,
franc, dire les choses, mais on peut pas accepter, comme tu disais, si on laisse ce genre de choses, et puis en plus si ça vient à savoir, alors là ça veut dire et que Lens viendrait à perdre cette place c'est possible quoi.
Et après il y a aussi le côté, faut pas oublier que, alors après c'est pas une excuse, mais il y a Alaba qui est certainement forfait, hein, le leader de l'équipe autrichienne, leur gardien s'est blessé également, donc c'est vrai qu'on peut imaginer le sélectionneur se dire ouais bon ça fait beaucoup, Kevin est un peu juste, mais c'est tout, c'est comme ça, enfin je veux dire il y a de l'enjeu,
c'est la vie des footballeurs,
voilà, le club
tu peux pas,
il est salarié du Racing Club de Lens, hein, faut pas l'oublier,
ouais, ça effectivement
c'est grâce à Lens qu'il est sélectionné aussi,
exactement,
donc ça faut pas l'oublier. Et je pense que même s'il a voulu être honnête, et je peux comprendre, mais c'est inadmissible, et je suis désolé de dire ça parce que je lui en veux pas, mais de pouvoir même imaginer se préserver. Moi je l'ai vécu à Nancy à l'époque avec Mustapha Hadji qui faisait la Coupe du Monde, et à partir de la trêve hivernale il le savait en fait, et il avait peur de jouer les matchs, je peux comprendre, hein, il avait peur de se blesser, on voyait qu'il jouait plus libéré, jouer différemment du début de saison, et c'est vraiment dommageable parce que c'est en plus dans ce genre de situation qu'on se blesse
généralement.
Plus.
Bah oui, t'as raison. On va revenir en tout cas à l'enjeu aussi de cette journée pour les Lensois. Tu en parlais, Jibo, de cette lutte à distance avec les Lyonnais, lutte à distance avec Édouard Jay pour toi, Jibo, qui est avec nous. Salut Édouard.
Salut Flora, salut Tony, salut Marion, bonjour à tous.
Salut. Lyon qui reçoit Strasbourg ce soir, Strasbourg qui n'a plus rien à jouer aussi, avec en ligne de mire donc cette place en Europe. quelle saison ce serait quand même pour toi aussi, Edouard, hein, autant rebondissement. Et si on t'avait dit au mois de décembre que Lyon avait une possibilité de finir européen, je pense que tu m'aurais pas cru.
Oui, oui, bah, j'ai un certain nombre de superlatifs, de mots incroyables, incassables, inqualifiables, improbables, historiques, uniques, inconcevables, irrationnels, irréels. Vous mettez le mot que vous voulez. Ouais, c'est vrai que, franchement, en 26 ans de suivi, je crois en avoir rajouté 5.
Inconsolable au début de l'année.
Ouais, aussi inconsolable au début de l'année. Voilà, c'est assez incroyable, hein, et c'est le repère que je redonne à tout le monde sur 34 matchs, 11 fois dernier entre le 22 octobre et le 15 décembre. 7 points au bout de 14 matchs, c'est quelque chose de vraiment d'inclassable. Voilà, on pensait que les Lyonnais étaient cassables à un moment donné, qu'ils n'allaient pas vivre une 66e saison en Ligue 1. Bah, finalement, la voilà, cette saison qui est là depuis, bah, le maintien qui est assuré, on va dire psychologiquement depuis début mars, mais officiellement et mathématiquement depuis le 26 avril. Quelle saison,
excuse-moi de te couper, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu as un coach en qui tu crois, parce que je veux dire,
l'arrivée de Pierre Sage, oui, a un peu tout changé pour les Lyonnais. Ouais.
Exactement, et tout le monde disait, j'en ai entendu beaucoup dire que c'était pas l'homme de la situation, et à l'arrivée, bah, il a prouvé tout le contraire, quoi. Exactement comme à Lens avec Aize. Je veux dire, ce sont des entraîneurs qui, alors moi j'aime les entraîneurs français, donc je suis peut-être partie prenante, mais je trouve que c'est super. C'est la belle histoire pour un club qu'on croyait complètement au fond du trou. On s'était même dit à un moment donné qu'il fallait peut-être descendre en Ligue 2 pour repartir.
Pour mieux remonter,
et là,
voilà.
Et là, qui joue le coude à coude avec Lens. Alors ça me plaît pas vraiment, parce que même si c'est deux anciens clubs à moi.
C'est
donc,
ce que j'allais dire. Mais t'as choisi ton camp, Marion.
Ah ben, on le connaît.
C'est vrai que Lyon nous a quand même habitués. Alors pas de cette manière-là caricaturale, mais quand même à des débuts souvent de saison un petit peu difficiles, et puis finir parfois en demi-finale de Ligue des Champions. Donc moi, je n'enterre jamais Lyon, même s'il y a eu effectivement quatre coachs cette saison. Il y a eu quand même, ils ont rectifié le tir, mais de main de maître quand même au mois de janvier avec sept arrivées, si je ne m'abuse. Donc et puis des arrivées vraiment, c'était intelligemment choisi. Moi, je suis toujours impressionnée quand même alors moi, j'étais impressionnée déjà par ce que faisait Aulas, mais là on a l'impression qu'on a repris un petit peu les vieilles recettes, les vieilles méthodes, et ça marche, c'est-à-dire prendre un entraîneur maison entre guillemets.
Ouais.
Moi je suis très contente de voir Lyon à cette place-là, parce que j'aime les belles histoires dans le sport, et ça c'est une belle histoire, voilà. C'est-à-dire vraiment,
ils reviennent de très loin.
Ils reviennent de très très loin. Moi j'ai une pensée quand même pour le coach italien qui s'est quand même pris dans la tronche. Voilà, absolument. Grosso. Cette agression, pour moi, c'était
Sage,
exactement, et je trouve que voilà, ça n'a pas donné aussi toujours une image très 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 positive de notre football. Mais encore une fois, quatre coachs cette saison est arrivé là. Ouais. Moi, je dis bravo. Hein.
C'est fort. Puis on va rappeler aussi, Edouard, quand même, que le grand rendez-vous aussi, l'autre, c'est évidemment cette finale de la Coupe de France le week-end prochain, face au PSG. Alors, j'imagine qu'il est déjà aussi dans toutes les têtes, mais mine de rien, on peut pas tout miser non plus que sur cette finale pour être européen l'année prochaine. C'est un peu risqué.
Non, parce qu'il peut y avoir dès ce soir, entre guillemets, le jackpot, hein, parce qu'il faudra jamais oublier que Lyon aura le plus petit nombre de points de son histoire en Ligue 1 récente. Hein, quand on voit qu'il y a encore 5 ans, c'était 76 points, par exemple, en Ligue 1. Une place de troisième, là ça va être après les 7e, 8e, ben, peut-être une 7e, une 6e ou une 7e ou une 8e place, donc c'est quand même pas non plus très glorieux à ce niveau, mais il y a au moins, peut-être, pourquoi pas, une place en Europa League. Désolé Djibo, déjeuner de tenue, aller chercher au dernier moment et de se rassurer d'entrer, c'est-à-dire que ce soir il y a une place en Europa League par la phase de poule, et surtout au coup d'envoi du match la semaine prochaine, il y aura cette place en Europa League qui sera là, donc ça peut un petit peu libérer les têtes et les jambes la semaine prochaine, parce qu'on le rappelle, la semaine prochaine il y aura certains trophées à aller chercher, mais le vainqueur ira directement en phase de ligue, on va pas dire en phase de poule, parce que ça a changé,
ça n'existera
maintenant,
plus, t'as raison de le dire.
Pas. mais voilà, c'est important aussi peut-être ce soir de finir bien avec un feu d'artifice, de finir bien sur le terrain à l'image des matchs que l'on a vu jusqu'à présent du côté des supporters, et puis de se dire que la semaine prochaine, entre guillemets, il y aura qu'un trophée à aller chercher, et ce trophée, ben, les Lyonnais l'attendent depuis depuis 12 ans. Donc franchement, il y a vraiment de quoi mettre en place quelque chose de bien pour ce soir avec l'effet de Pierre Sage. Et je vais pas tout vous rappeler, mais il y a eu tout ce travail de l'ombre au niveau de John Textor, qui d'abord était dans le déni total l'été et le mois d'octobre dernier. Souvenez-vous que la question de la descente, c'était une question comique à un moment donné. Et ben derrière, il s'est remis un petit peu en scène. Il a mis un DG, il a mis un des directeurs sportifs, il a fait les choses dans l'ordre, il a mis un petit peu de cerveau là où il en avait peut-être pas forcément en termes de non mais en termes de réflexion. Il se pensait peut-être encore dans des franchises à l'américaine en disant bon, c'est bon, on va y arriver. Voilà, parce que pour mettre les 56 millions et les 7 joueurs du mois de janvier, il a fallu travailler au niveau de la DNCG pour que la sanction de l'été dernier soit un petit peu allégée. Voilà, donc il y a eu tout ce travail de fait, et il l'a dit lui-même, il l'a dit, j'ai fait des erreurs, et il a rectifié le tir. Donc et puis surtout, la guéguerre avec Jean-Michel Aulas s'est terminée. Comme par hasard, le 10 décembre, ils étaient tous ensemble dans la tribune. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Ça gagne 3-0 avec un triplé de la casette pour relancer cette remontée fantastique.
Et on verra jusqu'à où ça aboutit. Merci beaucoup, messieurs. Edouard et Gibon, on va retrouver évidemment
avec plaisir.
Ce soir. Lyon-Strasbourg et ce Lens-Montpellier. Je vous rappelle les scores en Première Ligue. On est à la mi-temps de ce multiplex. Dernière journée de Première Ligue. Manchester City qui mène 2-1 face à West Ham, pendant que Arsenal est tenu en échec 1-1 face à Everton. Pour le moment, donc, Manchester City est le nouveau champion d'Angleterre pour la 4e fois de suite. Newcastle mène largement 3-0 face à Brentford, et puis aussi Liverpool mène de son côté 2-0 face à Wolverhampton. 17h57, on revient tout de suite pour la suite de l'Intégrale Foot sur RMC.
RMC Intégrale Foot,
Flora Moussi. 18h01, on est de retour dans l'Intégrale Foot sur RMC. Merci d'être avec nous. On est avec Marion Hidalgo, avec Tony Vérel, et on vous accompagne jusqu'à 19h. Après, ce sera Bartoli Time, votre rendez-vous dimanche soir avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet. On est à la pause dans le multiplex de la Première Ligue pour le moment. Si vous nous rejoignez, c'est Manchester City qui est champion d'Angleterre, puisque les Citizens mènent 2-1 face à West Ham grâce à un doublé de Phil Foden, et Arsenal est tenu en échec sur sa pelouse 1-1 par Everton. Il reste encore 45 minutes évidemment pour les Gunners pour essayer de revenir et décrocher ce premier titre de champion d'Angleterre pour la première fois depuis 20 ans quand même, depuis les Invincibles d'Arsène Wenger. La saison de Ligue 1 se termine ce soir avec un multiplex exceptionnel à 21h que vous suivrez évidemment sur RMC avec Jean-Louis Tour en chef d'orchestre, et notamment au programme un Metz-PSG qui a perdu un petit peu de sa saveur quand même, il faut bien le dire, déjà parce que Paris est sacré depuis plusieurs journées maintenant, et parce qu'en plus les Parisiens ont en tête la finale de la Coupe de France le 26 mai prochain face à Lyon, et que du coup bien le groupe parisien ce soir n'est pas celui attendu initialement. Il manque notamment un certain Kylian Mbappé. On va faire le point avec Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut messieurs, dames, bonsoir à tous.
Salut.
Bonsoir. Pas de Kylian Mbappé dans le groupe parisien ce soir, qui est un petit peu occupé d'ailleurs. Kylian Mbappé, là, il prend le soleil en ce moment, c'est ça?
Oui, la nouvelle est tombée ce matin, publiée à 10h sur le compte X, ex-Twitter du Paris Saint-Germain, annonçant donc pas de Kylian Mbappé, de Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz, Vitinha, encore Dembélé pour ce déplacement à Metz. Au club, on explique que c'est une nouvelle fois la gestion de l'effectif imposée par Luis Enrique, gestion d'effectif et du temps de jeu avant la finale de Coupe de France le 25 mai, ce sera face à Lyon. Et du coup, eh bien, Luis Enrique a décidé d'offrir à ses cadres 3 jours de repos, presque des mini-vacances, et ça a donc poussé certains dès hier soir rallier la Côte d'Azur pour prendre quelques jours de repos avant de reprendre l'entraînement donc mardi après-midi, comme je vous le disais, au campus PSG à Poissy.
Ouais, Kylian Mbappé, pour que ce soit clair pour tout le monde, qui a été aperçu sur la croisette à Cannes, donc en ce moment où il y a le festival, avec notamment Ousmane Dembélé. J'ai envie de t'entendre, tiens, là-dessus, Tony, est-ce que tu comprends alors la gestion de Luis Enrique, on va en parler dans quelques instants, plus le choix de Kylian Mbappé de ne pas être présent au stade pour ce dernier match de son histoire quand même avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu le comprends ou pas?
Bon, j'ai un petit peu de mal avec tout ça, mais le foot a évolué, donc à un moment donné, il ne faut pas toujours prendre nos années à nous et les retranscrire sur les générations actuelles. Il faut vivre avec son temps et pas faire les vieux cons, comme on dit. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec tout ça, prendre 3 jours de vacances, avoir un événement quand même assez important sur qui est la Coupe de France. Bon, après, ça peut te permettre d'évacuer un petit peu, de revenir encore plus fort. Mais bon, après, et là où je trouve que c'est dommage aussi, c'est pour les équipes qui jouent le maintien, ouais, par exemple, et de se retrouver avec une équipe plus ou moins amoindrie. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas normal. D'un autre côté, il vaut mieux peut-être des joueurs qui sont plutôt des remplaçants, mais avec,
concernés au moins. Ouais.
Voilà, mais concernés plutôt que des joueurs qui viennent en dilettante. Et qui derrière font pas le job. Donc après tout ça, c'est bon, ça reste un peu compliqué aussi pour Lorient, parce que quand tu vois quand même la différence de but et tout, faudrait vraiment une grosse opération de leur part. Mais je pense que Lorient
lutte à distance, on le rappelle, pour avec Metz, hein, pour rester, espérer, ne serait-ce qu'être barragiste. Hein.
Après voilà, je pense que moi j'aime l'équité, j'aime que les choses soient faites en bonne et due forme. On en parlait tout à l'heure justement pour le joueur lensois qui avait demandé à être préservé. Je pense que tout doit être fait pour ça m'est déjà arrivé d'ailleurs dans ma carrière de jouer contre des anciens potes à moi, des matchs hyper importants. Alors je donnerai pas les noms ni les équipes, mais tu vois, c'était le dernier match de l'année, le mec venait dans le couloir, te disait allez Tony, vas-y doucement, et tu peux pas savoir comment moi ça me perturbé, parce que je me dis mais c'est pas normal, moi je me serais jamais permis d'aller voir un ami à moi et lui dire Tony, lève le pied, on joue notre survie, tout ça, même si je peux comprendre, hein, c'est humain, mais je me serais pas vu le faire, en tout cas
la parce combativité que qui fait que tu ne pourrais pas.
Je suis peut-être un peu trop naïf là-dessus, mais mais pour moi c'était inconcevable de demander un passe droit ou de tu vois de
bien sûr.
Même si je te dis je comprends, c'est humain, mais voilà, ça me perturbait quand même un ancien pote à moi venait me voir et me demandait lève le pied, toi t'as plus rien à jouer. On jouait un match. Bon,
en tout cas, Arthur, pour revenir à Kylian Mbappé, c'est vrai que sa fin d'aventure avec le Paris Saint-Germain, même si on le rappelle, il y a encore cette finale de Coupe de France où là il va jouer, c'est quasi sûr. Elle est un petit peu bizarre cette fin de saison, parce qu'on va le rappeler quand même qu'il a plus joué depuis le match face à Toulouse, donc ça fera quand même deux matchs de suite qu'il rate. C'est un petit peu étrange. C'était prévu comme ça, on pouvait l'attendre comme ça en tout cas.
Bon, vu, on a envie de dire, depuis l'annonce de son départ à son président, vu la baisse de son temps de jeu et vu les déclarations de son entraîneur, on est presque à moitié surpris. Alors justement, pour reciter une nouvelle fois Luis Enrique ces derniers mois, d'abord il y a eu cette phrase après la rencontre à Monaco où il expliquait très clairement préparer déjà l'avenir sans Kylian Mbappé. On peut repenser aussi à ses mots dans la foulée de la défaite face à Toulouse, où il avait expliqué très, très clairement qu'il n'était pas satisfait de certains joueurs et qu'il attendait vraiment un meilleur visage de son équipe, et c'est pour ça notamment que Kylian Mbappé n'a pas été retenu dans le groupe pour Nice. Et puis pour terminer, ces mots hier en conférence de presse de veille de match, où il dit très clairement, moi ce que je veux c'est aujourd'hui soulever ce dernier trophée, cette Coupe de France, samedi prochain face à Lyon. Donc on va dire que tout cela mis bout à bout vient expliquer en grande partie le fait que Kylian Mbappé ne soit pas du déplacement ce soir à Metz.
Ouais, mais on peut s'interroger Marion quand même sur la gestion de Luis Enrique, de son effectif. Je le disais, Kylian Mbappé, ça fait deux matchs qu'il n'aura pas joué. D'autres joueurs n'auront pas joué depuis deux semaines maintenant, avant le grand rendez-vous de cette fin de saison pour le PSG. Est-ce que c'est la bonne solution malgré tout de préserver autant les joueurs, même si on comprend le but premier, évidemment éviter tout risque? Ça reste quand même assez risqué justement d'avoir des joueurs en méforme et en manque de rythme.
Mais j'aurais envie de te dire oui Flora, mais en même temps je vois la saison que Luis Enrique a fait au PSG et j'ai envie d'avoir une totale confiance, parce que je me dis finalement, quand on regarde les choses objectivement, il y a une demi-finale de Ligue des Champions avec quand même un effectif dont on va quand même pas dire que c'était le meilleur du Paris Saint-Germain dans l'histoire.
On les attendait pas forcément, oui.
Voilà, avec quand même des joueurs qui, pour la majorité, sont plutôt des joueurs de Ligue Europa, hein. Hormis Kylian, Gianluigi Donnarumma et sans doute Ousmane Dembélé, le reste, faut quand même pas non plus. Moi, je suis pas impressionnée par le milieu du Paris Saint-Germain. Je veux dire, faut être quand même clair. Eh bien, moi, je pense que c'est quand même le travail assez remarquable quand même de Luis Enrique. Au bout du compte, il leur laisse 3 jours de vacances. Je peux pas en vouloir à Kylian Mbappé d'aller sur la croisade. J'y serais allé aussi sans doute. Hein. Bon, voilà. Donc bon, mais en même temps, je suis d'accord avec Tony aussi. Les temps ont changé. Et c'est vrai que ça donne pas une image de grand sérieux. Et c'est vrai que cette fin de Kylian Mbappé qui fait la tronche à la fin du match contre l'OM. On a envie de lui dire sois un peu content. Il y a quand même ton équipe qui vient de gagner. Ce côté quand même très très starlette sur la demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, quoi. On a envie de lui dire dis donc, ok, on a compris, t'as déjà la tête au Real, mais il y a quand même un match de Ligue des Champions à jouer, et beaucoup de petites choses qui m'ont exaspéré de la part de Kylian Mbappé. Mais en même temps, est-ce que j'ai le droit d'en vouloir à un joueur de ce niveau et un coach de ce niveau,
Tony?
Non, franchement, c'est parfait ce que t'as dit, Marion. Enfin, moi, j'aurais pas dit mieux. Non, franchement, c'est vrai que sur certaines attitudes, je suis pas tout à fait d'accord avec le comportement de Kylian, mais est-ce qu'on a le droit de juger et surtout le droit de remettre en cause ce genre de d'athlètes? Ce sont des athlètes de toute manière différentes de du commun des mortels. Ils sont chouchoutés, ils sont dorlotés. Donc à un moment donné, leur ego dépasse un petit peu ce que nous on aime, ce que nous on aime. Et moi ce que j'aime, c'est voir, comme tu disais tout à l'heure, les belles histoires.
Ouais.
Et à l'arrivée, c'est pas, ça se termine pas comme on l'aurait voulu, quoi.
Arthur, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui. Non, autre précision importante pour parler une nouvelle fois de la gestion. C'est vrai que Kylian Mbappé est resté quand même très assidu en termes d'entretien physique. C'est important de le préciser quand même. C'est-à-dire que tout au long de la saison, il a essayé de rattraper, selon lui, le retard qu'il a accumulé en début de saison après avoir été placé dans le loft et du coup le fait qu'il n'a pas eu la même préparation que ses coéquipiers.
Et puis il y a peut-être autre chose qui a.
Ouais.
Et voilà. Et ça, il a réussi à le rattraper avec les préparateurs physiques. Et dernière chose, et peut-être qu'on en a tout simplement pas l'habitude et qu'on s'était habitué à cela justement avec Christophe Galtier, c'est que plus que de la forme physique et du rythme surtout, aujourd'hui, Luis Enrique privilégie la fraîcheur de ses hommes. On l'a vu, même avec des joueurs qui avaient des petits pépins physiques, qui revenaient de blessures et qui pourtant allaient très bien, comme Nuno Mendes récemment, eh ben, il a décidé de s'en passer pendant 2-3 rencontres pour vraiment ne prendre aucun risque. Là, on n'est pas dans la même situation, mais une nouvelle fois, c'est une question de fraîcheur.
Marion. Oui, et puis il y a quand même une dernière chose quand même importante, c'est qu'ensuite Kylian et Ousmane partent en équipe de France. Et on sait que pendant un mois après, ça va être Deschamps jour et nuit.
D'où l'intérêt de souffler un petit peu sur la croisée.
Voilà, après c'est des pâtes et du poisson sans sel, et c'est l'équipe de France tout le temps, donc c'est pas si drôle.
Voilà, c'est pas de vacances. Non, ça c'est clair. Rapidement, quelle équipe du coup pour le PSG ce soir, Arthur, encore de la jeunesse sur la pelouse?
Ah oui, bah, il suffit de regarder d'ailleurs ce groupe publié ce matin par le Paris Saint-Germain avec un effectif très très jeune et notamment Ethan Mbappé qui lui n'était plus là depuis un bon moment dans le groupe et qui fait son retour une nouvelle fois. On peut penser aussi à Seni Mayulu qui a marqué beaucoup de points récemment et qui demain va signer son premier contrat professionnel de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Et puis une dernière tendance que je voulais vous donner, c'est dans la cage parisienne, on se dirige vers la titularisation d'Arnaud Tenas. Ça reste à confirmer, mais voilà, c'est la tendance depuis le début d'après-midi. Ce qui voudrait dire que Keylor Navas, lui aussi, n'aura pas le droit à sa grande dernière sous les couleurs parisiennes ici à Metz.
Ouais, et ça, ce serait dur aussi.
Ouais, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage.
Ouais, c'est vraiment dommage. Mais on sait aussi qu'à Paris, il y a beaucoup de qualités, mais il y a aussi les fins de...
Le sentimentalisme n'est pas toujours là.
Il n'y a pas beaucoup de sentiments. Voilà. Mais il y a l'argent, donc comme il y a de l'argent, t'as pas intérêt à pleurer ou machin, etc. Tu joues et puis t'es content d'être là.
Merci Arthur. On te retrouve ce soir, évidemment, pour le multiplex, ce Metz PSG, 18h12. Sur AMC, c'est reparti en Première Ligue la dernière journée du championnat et notamment entre Manchester City et West Ham. Kevin.
Ah ouais, 4 minutes de jeu dans la deuxième période à l'Etihad Stadium. Manchester City mène 2-1 contre West Ham et est donc pour l'instant champion d'Angleterre avec 4 points d'avance sur Arsenal. Doublé de Phil Foden auquel a répondu un superbe retourné sur corner de Mohamed Kudus. Mais donc ça fait 2-1 pour City et Pep Guardiola est revenu des vestiaires un peu crispé parce que ce but de West Ham sur le seul corner des Hammers dans la première période l'a un peu contrarié, évidemment, Pep Guardiola qui espère que son équipe va lui offrir un nouveau titre de façon plus sereine dans cette deuxième période. 2-1 donc après 49 minutes de jeu à l'Etihad.
On a pu connaissant Pep Guardiola, il avait forcément aussi un œil sur le match d'Arsenal qui est revenu, hein, Edgar, juste avant la pause tout à l'heure, hein, face à Everton, hein.
Oui, 49e minute, hein, partout entre Arsenal et Everton. Idrissa Gueye qui avait ouvert la marque pour les Toffees à la 40e minute sur un coup franc contré, et puis 3 minutes plus tard Tomiyasu qui avait égalisé pour les Gunners, et c'était un but qui était venu quasiment au même moment que le but de Kudus pour West Ham. Donc évidemment ça a remis ce titre en jeu, on va dire, ça a remis le suspense dans cette soirée. 50e minute, un partout entre Arsenal et Everton.
Allez, 18h13 sur AMC, on revient dans quelques instants dans l'intégral foot pour la suite de ce multiplex, et puis on va vous parler aussi évidemment de la lutte pour le maintien en Ligue 1, cette lutte féroce entre Lorient et Metz pour savoir qui sera barragiste dans cette fin de saison. À tout de suite sur AMC.
Intégral Foot.
Flora Moussi.
18h16 sur AMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Foot. On est avec Marion Hidalgo, avec Tony Vérel. On vous parle du multiplex de la dernière journée de Ligue 1 qui vous attend ce soir. On déroule les enjeux. On va parler du maintien évidemment dans quelques instants. Mais restons d'abord en Première Ligue où le titre est en train de se jouer dans cette dernière journée. À l'avantage évidemment pour le moment de Manchester City, Kevin.
53e minute de jeu à l'Etihad. 2-1 pour Manchester City qui compte donc 4 points d'avance à l'heure actuelle sur Arsenal. Le corner à l'instant pour les Citizens, ça n'a rien donné. Il y a eu des énormes occasions en première période, notamment pour Erling Haaland, de faire la différence, de donner un plus large avantage aux Sky Blues. Ça n'a pas été le cas. On est resté sous la menace de ce but, de cette réduction de l'écart intervenue par Kudus. Et on le rappelle, si Manchester City est tenu en échec par West Ham, et bien là Arsenal en cas de victoire serait champion. Donc évidemment, on va éviter ce scénario catastrophe ici à l'Etihad cet après-midi en voyant les Londoniens de West Ham donner un petit coup de pouce à leurs voisins d'Arsenal.
Ouais, Arsenal qu'on aurait bien besoin en ce moment, Edgar.
54e minute, un partout entre Arsenal et Everton. Arsenal qui vient d'avoir une énorme occasion avec Martinelli qui était lancé en profondeur et finalement un petit peu court. Pickford qui a pu intervenir. Arsenal qui est largement dominateur dans cette partie. 13 tirs cadrés là où Everton a marqué 13 tirs pardon là où Everton a marqué sur son seul tir cadré, mais voilà, Everton a été réaliste, a eu un petit peu de chance avec ce coup franc contré, et pour l'instant ça fait un partout au moment où Abdoulaye Doucouré est sanctionné d'un carton jaune. Un partout, 54 minutes de jeu.
Il y a encore du temps effectivement dans cette dernière journée de Première Ligue. Moins de suspense en Ligue 1 ce soir pour le dénouement de la saison, mais quand même, et notamment au niveau du maintien. 21h pour le coup d'envoi du multiplex, et on aura notamment un œil sur le Metz PSG d'un côté et Lorient Clermont de l'autre pour savoir qui sera barragiste. On a évoqué juste avant le fait que le PSG se présentait ce soir à Metz avec une équipe remaniée sans Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. De quoi, pourquoi pas, offrir une vraie chance à Metz de faire un coup ce soir. Certains diront d'ailleurs, tout comme Tony, que c'est pas très équitable. Alors qu'est-ce qu'on en pense à Lorient, l'adversaire à distance des Messins? On va poser la question tout de suite à Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Flora, salut à tous.
Salut. Est-ce que l'annonce salut Marion, de l'absence Tony. De Kylian Mbappé dans le groupe parisien a fait grincer des dents dans les rangs lorientais?
Oui, alors un petit peu. Alors au club, on essaye de pas trop se cacher derrière ça, et sans doute à juste titre, parce que le retour de bâton serait sûrement un peu fort. C'est pas le PSG qui va envoyer Lorient en Ligue 2. Ils vont y aller s'ils y vont, et c'est probable tout seul par une saison qui est catastrophique. On peut rappeler quand même que la série des Lorientais, c'est 7 défaites de suite, 8 défaites de suite même, et un nul, et 9 défaites donc sur les 10 derniers matchs. Donc c'est une catastrophe intégrale, la saison des Merlus. Mais effectivement, notamment du côté des supporters, bah, ça râle beaucoup. Surtout le fait, souvenez-vous, que Lorient avait accepté, alors, même s'ils n'avaient pas trop le choix, de décaler leur match face au Paris Saint-Germain au mois d'avril pour que Paris se prépare au mieux pour la Ligue des Champions, ce qui avait obligé les Lorientais à jouer 3 matchs en une semaine, ce qui n'est pas forcément facile pour une équipe qui joue le maintien. Et en plus, ils avaient été largement battus au moustoir face au PSG. Donc bon, il n'y a pas de retour d'ascenseur, ouais, on va dire. De toute façon, on va être clair, il aurait fallu un miracle pour que ça passe. Il aurait fallu non pas remonter 7 buts, hein, comme les 7 buts qui séparent Lorient de Metz à la différence de buts, mais 8, parce que les buts marqués sont catastrophiques par Lorient. Et Metz est vainqueur au but à l'extérieur marqué dans les confrontations directes. Donc il aurait fallu 8 buts.
Un but de plus,
Lorient n'a jamais gagné dans... Ouais, exactement, Lorient n'a jamais gagné dans son histoire plus de 5-0. Donc voilà, on rêvait d'un
optimisme.
Ou alors que PSG gagne avec une grosse différence de but.
C'est ça, voilà. On rêvait du côté de Lorient d'un quadruplé de Kylian Mbappé pour dire adieu à la Ligue 1 ou quelque chose comme ça. Malheureusement, il y aura pas de Mbappé, il y aura pas d'Embélé, il y aura pas Donnarumma, il y aura pas Vitinha, ouais, il y aura pas Ruiz. Enfin bref, il y aura pas grand.
Alors les scénarios sont pas encore écrits. Évidemment, on ne sait pas ce qui se passera ce soir. Ça se trouve, le PSG gagnera largement quoi qu'il arrive face à Metz. On ne sait pas. Mais Tony.
Et il y aura peut-être un quadruplé d'un Mbappé aussi. Hein.
Exactement, c'est possible. Finalement, ils vont peut-être avoir ce quadruplé d'Ethan Mbappé cette fois-ci. Tony, tu nous en parlais tout à l'heure de cette équité qui te tient, toi, à cœur dans tous les championnats. C'est vrai que là, Xavier nous rappelait le précédent avec Lorient qui avait déplacé son match pour rendre service au PSG qui était en Ligue des Champions. On n'y est pas sur cette équité là pour toi. Hein.
Non, c'est sûr. Après, comme il l'a très bien expliqué, c'est pas aujourd'hui.
C'est pas là
qu'il faut
que se joue la saison.
Ouais. Voilà, c'est pas là que se joue la saison. Mais c'est vrai que des fois, dans des saisons, on essaye d'arranger les équipes qui nous représentent sur la scène européenne. Et voilà, on peut avoir quelques petits regrets quand on se rend compte derrière que eux ne jouent pas. Enfin, c'est un bien grand mot quand je dis qu'ils jouent pas le jeu. C'est aussi la circonstance qui fait que Mais c'est vrai que ça peut être dommageable pour ce genre de situation. Mais encore une fois, il faut vivre avec son temps. Il faut arrêter de voir les choses comme à notre époque à nous. Je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a quand même un effectif qui est capable d'aller faire un très très bon résultat quand même, malgré les absents.
Ouais.
SMS quoi.
Oui, enfin moi j'ai connu un Lyon avec Tony Vérel qui était aussi ultra dominateur en Ligue 1 au début des années 2000 et on allait à Gerland un petit peu en se disant bon bah voilà combien Lyon va gagner. Ouais, ou voilà exactement. Combien on va prendre. Alors c'est quoi, c'est 1-0, 2-0, 3-0, on va prier pour que. Donc c'est toujours ça quand il y a un club ultra dominateur en Ligue 1. Je me permets juste une chose, hein, c'est un peu un faux suspense quand même en bas hein, si je puis me permettre.
Ouais, bah oui.
Oui, je suis désolée. Oui. Hein, oui. Voilà. Bon voilà parce que
on est tous d'accord.
Le goal average effectivement empêche le suspense et soyons honnêtes.
Et moi, ça fait 3 pour Manchester City. Rodri qui met ce troisième but pour les Citizens. 59e minute de jeu. Pep Guardiola qui lève les bras évidemment. Peut-être que là la route vers le titre se dégage pour les Citizens. C'était un ballon venu du côté droit pour De Bruyne et le centre en retrait donc vers Rodri à l'entrée de la surface. La frappe pour tromper Areola. 3-1 donc pour Manchester City face à West Ham à l'heure de jeu.
Ouais, dans quelques minutes City nous a tué le suspense en première ligue. Marion nous a tué le suspense enfin ouais, en bas du classement en Ligue 1.
Non mais en plus j'étais en train d'enfoncer une porte ouverte totale puisque je disais que on va être honnête, jamais Lorient ne rattrapera Metz.
Ouais.
Hein, faut être à mon avis sérieux et jamais Metz ne rattrapera le Havre.
Ouais, ce qu'il faut quand même aussi rappeler Xavier, c'est que la saison pourrait être encore plus catastrophique pour Lorient parce que là on parle de la place de barragiste à aller chercher, mais Lorient pourrait encore terminer dernier, lanterne rouge de Ligue 1, c'est ça aussi.
Ouais. Non, mais franchement ils ont fait... entre la cote pour que Lorient se maintienne ou la cote pour que Lorient finisse dernier, moi je mise clairement pour la cote pour que Lorient finisse dernier. Leur saison est tellement mauvaise que voir Clermont s'imposer au Moustoir, ce serait pas complètement farfelu. Voilà, l'ambiance ça va être tendue, les ultras vont faire grève un quart d'heure et ont prévu a priori pas mal d'actions de banderoles pour crier leur colère sur la saison. Lorient c'est quand même un fiasco total au vu des ambitions du début de saison et du recrutement qu'ils ont pu faire qui était parfois à contre-courant de ce qu'était le club avant. Donc non, il y aura un gros bilan. Loïc Ferry il va devoir assumer aussi des choix et il y aura beaucoup de joueurs qui vont devoir partir parce qu'il y a des salaires qui ne correspondent pas forcément à ce qu'était Lorient. Le 8e budget hein, Flora, Marion et Tony, 8e budget, on l'avait presque oublié, c'est Loïc Ferry qui l'a dit lui-même il y a 15 jours au Moustoir.
Oui,
Loïc Ferry. 8e budget avec près de 80 millions, près de 80 millions d'euros. Ouais.
Oui, et puis je vais faire du féminisme à deux balles, mais d'être allé chercher Benjamin Mendy pour faire un petit coup à l'été 2023. Non, est-ce que c'était vraiment.
Hein. Ouais.
Voilà. Est-ce qu'on était vraiment. Est-ce que c'était vraiment obligatoire? Est-ce que c'était nécessaire? Mais ils ont. Alors, à leur décharge, quand même, ils ont essayé de se rattraper quand même au mois de janvier. Avec, moi, je trouve des choix qui étaient pas si mauvais en tout cas en janvier.
Lors du mercato.
Du mercato de janvier. Mais bon, malheureusement, là, c'était vraiment trop tard. Et voilà, mais Lorient est une équipe qu'on sait qu'on peut les revoir en Ligue 1 à tout moment, dans un an, dans deux ans. Hein.
C'est vrai, Tony, qu'on ne s'attendait pas forcément à les voir plonger comme ça dans cette saison de Ligue 1. Ils pourraient terminer dernier. Ce serait quand même assez fou par rapport, Xavier le disait, aux ambitions initiales de ce club-là. Hein.
Oui, mais comme Xavier le disait, de toute manière, quand on perd 9 matchs sur les 10 derniers, c'est pas possible à un moment donné. Il y a des années où on n'a pas de chance, ça m'est déjà arrivé aussi dans ma carrière, où vraiment rien ne tourne pour toi. Mais il y a aussi des années où tu ne mets peut-être pas tout de ton côté. Est-ce que les joueurs étaient vraiment concernés? Est-ce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour leur club ou leur coach? Peut-être qu'on parlait tout à l'heure de croire en son coach. Je ne sais pas s'il y a un problème là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas normal. Tu ne peux, tu peux pas espérer te maintenir ou faire un coup sur la dernière journée, comme disait Marion, et un coup qui serait plus de la sorcellerie qu'autre chose. Si en ayant perdu tes 9 matchs sur 10 quoi. Ouais, c'est pas possible.
Et puis à domicile aussi c'est assez catastrophique cette saison Lorient. J'espère que les supporters lorientais nous ont bien écouté, ça va leur mettre du baume au cœur là pour peut-être que tu seras le faiseur de miracles pour les lorientais ce soir. Lorient Clermont assure évidemment dans le multiplex dès 21h avec toi Xavier. Merci beaucoup. On te retrouve retrouve ce soir. Un point sur les scores en Première Ligue et notamment ce Manchester City West Ham, Kevin.
63e minute de jeu à l'Etihad, 3-1 pour Manchester City face à West Ham. Le doublé de Phil Foden, le but de Rodrigo, c'était Kudus qui avait marqué pour les Hammers.
Arsenal, Everton, Edgar.
Un partout, 63e et là l'envolée de Raya. Ça reste un partout entre Arsenal et Everton.
Et donc Manchester City pour le moment, sacré champion d'Angleterre pour la 4e fois de suite. De son côté, Manchester United n'arrive pas à débloquer le score, 0-0 face à Brighton. Newcastle mène largement 3-1 face à Brentford. Tottenham aussi mène 3-0 face à Sheffield. Et puis 2-0 pour Liverpool pour la dernière de Jurgen Klopp face à Wolverhampton. 18h27 sur RMC, l'intégral foot revient tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
18h31 sur RMC. Merci de nous rejoindre dans l'Intégral Foot avec Marion Hidalgo, avec Tony Vérel. On continue de vous dérouler les enjeux de la dernière journée de Ligue 1 ce soir, multiplex à 21h. Mais on suit d'abord le multiplex de la dernière journée de Première Ligue, cette fois-ci avec le suspense évidemment pour le titre. Suspense moindre maintenant parce que Manchester City a pris le large, hein, toujours face à West Ham, Kevin.
Ouais, 68e minute, 3-1 pour Manchester City à l'Etihad face à West Ham. Le 4e corner de suite là pour les Citizens sur le but d'Areola. Ça va être Phil Foden, le double buteur dans cette première période, qui va s'en charger. Il y a eu du danger sur le but d'Areola qui a eu du travail aujourd'hui. Ses premiers poteaux s'est dégagé par les Hammers. Ça fait donc 3-1, 69e pour les Citizens contre West Ham.
Les Gunners pour le moment n'arrivent pas non plus à se défaire d'Everton, Edgar. Hein.
68e minute, un partout entre Arsenal et Everton, et Kai Havertz qui a failli donner l'avantage à Arsenal. Il est monté plus haut que tout le monde dans la surface sur un bon centre venu de la droite, et sa tête qui s'est heurtée sur le poteau droit de Jordan Pickford. Ça fait toujours donc un partout entre Arsenal et Everton après 69 minutes.
L'évolution des scores aussi sur les autres pelouses. Liverpool mène toujours 2-0 face à Wolverhampton, 3-0 pour Tottenham face à Sheffield. Newcastle mène 3-2 maintenant face à Brentford, et Manchester United vient d'ouvrir le score 1-0 face à Brighton. L'Olympique de Marseille sera-t-il en Europe la saison prochaine? Rien n'est moins sûr, mais il y a encore de l'espoir pour les Marseillais en déplacement au Havre ce soir à 21h pour la dernière journée de Ligue 1. Multiplex exceptionnel évidemment que vous suivrez sur RMC avec Jean-Louis Tour et tous nos reporters sur place. En attendant, on parle de l'OM avec Aurélien Tiercin qui va commenter cette rencontre. Salut Aurélien.
Salut Flora, salut à tous.
Salut.
Et il y a encore de l'enjeu, hein, je le disais pour l'OM, Aurélien, aller chercher une place en Coupe d'Europe, même si ça dépend plus vraiment que d'eux, hein, les Marseillais. Hein.
Ça dépend même beaucoup des autres finalement. Alors non, déjà effectivement, l'Olympique de Marseille, pour ne pas paraître plus bête qu'ils ne sont en ce moment cette saison, doivent gagner ce soir. Alors déjà, c'est assez rare de gagner à l'extérieur. Il y a que 2 victoires à l'extérieur, à Lorient et à Clermont, les deux a priori relégués de cette saison de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, en cas de victoire, devra espérer au moins une défaite de Lens ou de Lyon. Dans le meilleur des cas, défaite de Lens contre Montpellier à domicile et défaite de Lyon contre Strasbourg à domicile. C'est hautement improbable, mais pourquoi pas. Dans ce cas-là, l'OM monterait à la 6e place, et ça voudrait dire au moins la Ligue Europa Conférence, des tours préliminaires de Ligue Europa Conférence. Mais dans le meilleur des cas, il y a aussi la Coupe de France à attendre, la finale entre le PSG et Lyon la semaine prochaine. Et si l'Olympique de Marseille termine 7e derrière Lens, il faudra espérer la victoire du Paris Saint-Germain.
Ça fait mal à dire, hein, mais oui, hein, les Marseillais vont devoir supporter le Parisien.
Mais si l'OM termine 7e derrière Lyon, l'OM peut espérer également la victoire de Lyon, parce que dans ce cas-là, ça décalerait également d'une place.
Alors, on a perdu Aurélien qui nous expliquait pourtant assez simplement, effectivement, que le voir des Marseillais pouvoir devenir supporters du Paris Saint-Germain sur cette finale, ou même des supporters de Lyon, hein, d'ailleurs ça marche pour les deux clubs, ils vont avoir le cœur partagé, ces Marseillais, mais Tony, Marion, c'est vrai que cette saison marseillaise ressemble à un cauchemar, tout simplement. Hein. Tony, vas-y.
Vas-y Marion.
Personne ne peut tenter le coup sur Marseille.
C'est effectivement là aussi, hein, 4 coachs cette saison. Ça, c'est très très compliqué. Quand il y a vraiment cette attente trop forte des supporters. Moi, je trouve que c'est une atmosphère Marseille. Très difficile pour les joueurs, très difficile pour le coach, très compliqué pour le directeur sportif. Moi, j'oublie pas que Longoria était au bord de démissionner en début de saison. Donc, on démarre déjà avec ça. Ensuite, Marcelino qui part au bout de très très peu de temps. On a à peine le temps de le voir, déjà c'est terminé. Voilà, 4e coach Gassé. Je vois les supporters de l'OM qui disent ouais, mais Gassé il est trop vieux. Moi, j'ai envie de dire bon, Gassé il a quand même fait ses preuves en Ligue 1. Pour moi, c'est un très bon entraîneur. Et je trouve que les entraîneurs ne supportent pas finalement cette ambiance marseillaise. Je vais me faire des ennemis là aussi, mais il va falloir que à Marseille, on comprenne que 93, c'était il y a longtemps, et qu'on arrête d'attendre trop de cette équipe. On attend trop de Marseille. On attend trop des joueurs. On leur met une pression qui n'a absolument aucun sens.
Après, légitimement aussi peut-être, avec tout le passif de ce club, mine de rien, fait qu'on l'attend à ce niveau-là.
Oui, on l'attend à un certain niveau, mais ça fait très longtemps. En 30 ans, finalement, il n'y a que la période des champs, finalement, ouais. avec le titre. Je veux dire, quelques coupes de la Ligue, et c'est tout. Je veux dire, il ne faut pas non plus attendre trop de cette équipe. On a l'impression vraiment que Marseille doit être deuxième après le Paris Saint-Germain. Sinon, c'est une saison ratée. Sinon, on n'y arrive pas. On attend beaucoup trop des joueurs, et je pense que cette pression sur les entraîneurs n'est pas bonne du tout, parce qu'il y a eu des très bons entraîneurs. Moi, les Villas-Boas, ce qu'a fait Rudy Garcia avec la Ligue Europa, ce qu'a fait même Tudor, je veux dire, moi j'ai trouvé quand même que la fin de Tudor était absolument pas à la hauteur, enfin je veux dire voilà, et Gasset non plus d'ailleurs, je veux dire, c'est sans doute la fin de sa carrière. Moi j'aimerais quand même qu'on applaudisse un peu ce grand monsieur. Non, il va partir de comme si il était, voilà, bon, et ça ne me plaît pas du tout à Marseille. Il y a pas de patience.
On a retrouvé Aurélien qui est de retour avec nous, qui voulait plus non plus parler de Marseille. Voilà, personne n'a même parlé de Marseille. Aurélien, est-ce que cette Ligue Europa Conférence à aller chercher éventuellement, est-ce que ça suffit à motiver ces Marseillais, parce qu'on sent que dans cette fin de saison, ils ont plus vraiment la tête sur le terrain, les Marseillais. Hein.
Mais ouais, t'as raison. Mais alors Marion le disait très bien. Déjà, Jean-Louis Gasset a demandé à terminer de la plus belle des manières, parce que là, c'est une fin de carrière. Donc, il aimerait bien que les joueurs lui offrent au moins ça, parce qu'à Reims, il a été déçu par ses joueurs, la défaite, toute petite défaite 1-0, et puis se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Alors certes, c'est pas du standing de l'Olympique de Marseille, c'est pas du standing de la plus haute masse salariale de l'histoire de l'Olympique de Marseille, plus de 140 millions d'euros dans l'ère Franck McCourt. Ça ne fait quasiment qu'augmenter. Il y a eu une petite baisse en 2020, mais à part ça, c'est quasiment exponentielle. Donc la Ligue Europa Conférence, ça sauve un petit peu les meubles, parce qu'il y a aussi beaucoup de recrues très chères, d'Ismail Assar, d'Iliman Ndiaye, et puis ça permettrait aussi de recruter, peut-être d'attirer un entraîneur de renom, avec un peu plus de renommée l'année prochaine, un Paulo Fonseca. On parle également de Sergio Conceição, l'entraîneur du Football Club de Porto, qui est déjà passé par la Ligue 1 et par le FC Nantes. On parle aussi de Franck Heise. Tous ces gens-là, ce sont des entraîneurs qui ont l'habitude de jouer l'Europe. Donc même si c'est la petite Coupe d'Europe, la toute petite Coupe d'Europe, c'est déjà un petit plus. Et puis il y a deux ans désormais, quand l'OM termine demi-finaliste de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam, il y a le quart de finale contre le PAOK Salonique. Ça offre des grosses ambiances au Stade Vélodrome. Ça arrive comme ça la saison d'un club gigantesque à l'échelle française. Il faut évidemment se qualifier pour la Coupe d'Europe, et comme je le disais, si jamais Lens ou Lyon font un faux pas à domicile, il faudrait pas paraître très bête en ayant concédé un nul perdu au Havre et se retrouver 8e quoi qu'il arrive, voire 9e, puisque Rennes peut aussi passer devant.
Et sans mordre les doigts. T'as raison aussi de le préciser, Tony. C'est vrai que là, l'OM risque clairement de terminer une saison une fois de plus sans aucun trophée, et en plus sans une qualification européenne, ce qui est terrible pour ce club-là. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Après, il y en a certains qui pensent qu'il faudrait repartir à zéro et peut-être ne rien jouer cette année pour justement repartir sur une page blanche l'année prochaine. Après, je pense que un club comme Marseille doit essayer de toute manière de jouer une Coupe d'Europe, même si c'est pas celle que les supporters rêvent, que les joueurs rêvent. Mais ça peut aussi être préjudiciable pour le recrutement aussi, parce que moi j'ai vécu aussi dans ma carrière, quand tu as deux clubs qui sont intéressés, si l'un est européen et pas l'autre, ton choix il est vite fait. Quand tu penses sportif, et ce qui était mon cas, moi c'était le sportif avant tout, tu vas dans un club qui est européen, parce que quand tu as eu la chance de jouer ces compétitions, t'as pas envie de t'arrêter, quoi, ça devient une drogue.
T'as raison d'évoquer aussi ce mercato, évidemment, parce que c'est vrai que toutes les intersaisons marseillaises, c'est le point principal, de savoir qui va arriver, qui ne va pas arriver. Évidemment, le nouveau coach, ça fera aussi la différence. Aurélien, est-ce qu'on doit s'attendre à une revue complète d'effectifs côté marseillais pour la saison prochaine ?
Complète peut-être pas, mais il y aura du changement évidemment. Il y a des recrues jeunes où on aimerait les laisser progresser, comme Iliman Ndiaye, parce qu'il y a eu quasiment plus de 15 millions d'euros investis sur le joueur qui jouait à l'époque en D2 anglaise à Sheffield United, donc faudrait peut-être lui laisser un petit peu de temps. Et puis par contre, dans l'idée de donner un contrat au prochain entraîneur, un contrat de 3 ans pour justement qu'il ait le temps de s'installer et mettre en place un nouveau cycle à l'Olympique de Marseille, évidemment il y aura peut-être pas une feuille blanche, mais il y aura des nouveaux joueurs qui vont arriver. Quid d'un Pierre-Emerick Aubameyang avec un salaire à quasiment 800 000 euros par mois, effectivement ça sans Coupe d'Europe aussi, est-ce que tu peux te permettre de continuer à payer un joueur même si son rendement sauve un peu la phase du club? Mais voilà, les Joaquin Correa, alors ça c'est une certitude, il partira par exemple l'Argentin, mais il y aura du mouvement sur des joueurs comme ça qui ont déçu. Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia, Asdin Unai, que des recrues qui ont quand même coûté un petit paquet d'argent depuis 2-3 saisons, qui personne s'est imposé à l'Olympique de Marseille. Il y aura aussi le retour d'un joueur comme Valentin Rongier, Leonardo Balerdi, est-ce qu'on va devoir le vendre, puisque mine de rien lui fait une grosse saison, lui progresse contrairement à d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, l'idée c'est de repartir sur un nouveau cycle avec un entraîneur qui aura 3 saisons pour mettre en place son projet de jeu. De là à repartir totalement à zéro, je ne pense pas, puisqu'il y a des joueurs, voilà, comme Illiman Ndiaye, par exemple, comme Quentin Merlin, des jeunes joueurs comme ça de l'Olympique de Marseille qui doivent progresser et emmener l'Olympique de Marseille un peu plus haut dans les années à venir.
Ouais, t'évoquais évidemment le nouveau coach pour la saison prochaine. On parle beaucoup de Paulo Fonseca. Ça a été ces derniers temps annoncé comme étant fait dans la presse italienne, notamment. Lui refuse d'en parler pour le moment tant que la saison n'est pas terminée avec Lille. Bonne ou mauvaise idée, tiens, quand on est Paulo Fonseca, Marion, Tony, d'aller signer à l'Olympique de Marseille, vu le contexte dont tu parlais, Marion, est-ce que tu penses que lui aurait les épaules justement pour résister à toute cette pression?
Il aurait les épaules, mais ils avaient tous les épaules. Quand on voit un mec comme Villas-Boas, il avait les épaules. Hein. Quand on voit il y a quand même eu des très grands entraîneurs ces dernières années, vraiment, c'était assez impressionnant. Mais encore une fois, on en attend trop. Et sur les joueurs, sur les choix de joueurs, moi, je suis pas choquée qu'ils aient pris Aubameyang, qu'ils aient pris Kondogbia. Mais ensuite, encore une fois, c'est une atmosphère compliquée et trop, où on attend peut-être un peu trop mentalement de... Alors moi je serais Fonseca, oui, peut-être que je n'irai pas, oui. Mm. Ça c'est sûr. Parce qu'en plus, voilà, en plus, imaginons que Marseille aille en conférence. Mm. Imaginons que Manchester United aille en conférence. On sait déjà que si Marseille rencontre Manchester United, c'est difficile pour Marseille. Ils se font sortir, imaginons, en quart de finale de la conférence contre Manchester United. On va dire quoi sur Marseille? On va dire, mais ils sont nuls. Alors qu'ils le seront. Alors qu'objectivement, ils rencontreront un grand Europe. Donc, et on attendra trop. Alors que si c'est Brest ou Lens, on dira très beau parcours. Ils ont fait ce qu'ils ont.
Oui, c'est pas le même statut de club
donc,
non plus.
Donc, c'est difficile.
Ouais. Tony, toi, ton avis sur la possible venue de Paulo Fonseca à Marseille, est-ce que c'est un profil qui pourrait permettre justement aux Marseillais de se poser peut-être un peu plus et de construire ce projet?
Bah, surtout s'il lui donne 3 ans pour justement arriver à faire que ce club redevienne. Alors comme disait Marion, il faut pas toujours attendre que Marseille redevienne Marseille de 93. Il faut leur laisser un peu de temps. Après, quand t'as un public comme celui-là,
patience, c'est pas la plus grande vertu marseillaise.
Et je veux dire, quand t'as connu les belles heures, je sais que même par exemple le public de Lens, ben, après notre titre, ben, il devenait plus exigeant.
Bien sûr.
Parce que quand t'as connu de belles choses, ben, tu veux pas redescendre en dessous. Pour toi, c'est inconcevable. Et je peux comprendre les supporters. Après, tu as raison, Marion. Il faut le dire. Et il faut surtout que les gens soient patients et qu'ils laissent un petit peu de temps à justement un entraîneur de s'installer, à une équipe de se mettre en place. Je connais très bien Mehdi Benatia.
Oui.
Je pense que c'est des gens qui sont marseillais, qui ont envie de faire du bon job, et faut juste leur laisser le temps de mettre les choses en place, et ça va revenir. C'est cyclique de toute manière. C'est toujours comme ça. Regardez Lens, ils ont connu de mauvaises périodes. Aujourd'hui, ils sont revenus au devant de la scène parce que Franck Hess a pu travailler sur du long terme. Et ça c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour que Marseille redevienne une grande équipe européenne sur la scène européenne.
Regarde, Tony, tu parles de Benatia. Moi je le connais pas personnellement, donc je vais en parler très librement. Moi j'ai pas spécialement aimé sa petite sortie sur Jonathan Clauss, si ma mémoire est juste cette saison. Moi ça me plaît pas. Non mais ça me plaît pas. Voilà. Dans quel club on voit ça? Dans quel club on voit un mec qui dit sur son joueur, ouais bah dis dis donc, il a intérêt à... Non, mais ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas non plus. Moi, je voudrais un peu plus de calme. De sérénité. Ouais, je vois aussi, j'ai le plus grand respect pour Habib Bey, mais Habib Bey, on a l'impression qu'il nous a expliqué 10 fois, là, je voudrais être l'entraîneur de Marseille. J'adore, mais moi, j'adore Habib Bey, mais j'ai envie de dire un peu
trop
de calme.
Red Star et voilà.
Ouais, un peu de calme quand même. Un peu de calme.
Mais ils peuvent se laisser tenter. Hein. Je les sens bien se laisser tenter.
C'est pas les meilleures conditions pour les entraîneurs en place. Et pour,
en plus. Ouais. Donc, voilà.
Et on verra déjà le dénouement de cette saison marseillaise ce soir. Ce sera déjà une bonne avancée pour savoir jusqu'où va terminer Marseille dans cette fin de saison de Ligue 1. Merci beaucoup, Aurélien. On te retrouve ce soir en commentaire pour ce Havre-Marseille qui va donc déterminer la fin de saison marseillaise. On s'approche aussi de la fin de saison en première ligue avec Manchester City qui n'est plus qu'à aller 10 minutes du titre maintenant, Kevin.
Ouais, 82e minute, 3-1 pour Manchester City qui a une face et demie sur le trône de la première ligue avec ce corner à suivre là pour De Bruyne et les Citizens. Mais donc ça fait 3-1 et ils vont sans doute conserver leur titre, donc les Sky Blues.
Ouais, mais toujours Arsenal qui est tenu en échec, Edgar.
Et 82e minute, un partout, toujours effectivement entre Arsenal et Everton.
Et Manchester United qui vient de doubler la mise à l'instant face à Brighton, 2-0 pour les Red Devils. 18h46 sur RMC. La dernière ligne droite de l'intégral foot, c'est dans quelques instants.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
18h49 sur RMC. C'est la dernière ligne droite de l'Intégral Foot avec Marion Hidalgo, avec Tony Vérel. On suit évidemment à la fin du multiplex de la première ligue. On vous rappelle le rendez-vous juste derrière à 19h. Marion Bartoli, Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time. C'est votre rendez-vous du dimanche soir où on parlera vélo, notamment avec Patrick Lefebvre, le manager de la Soudal Quickstep. Pardon, hein, les équipes de cyclistes changent toutes les années. La Quickstep qui sera évidemment l'équipe de Julien Alaphilippe qui a gagné cette semaine sur le Giro. On en parlera évidemment avec lui. On reste sur la première ligue, la fin de match du côté de Manchester City face à West Ham. Manchester City, allez, on peut le dire, Kevin, hein, qui va être sacré champion d'Angleterre maintenant.
Oui, on peut le dire sans trop s'avancer. Ça sent bon pour l'Etihad Stadium qui va pouvoir certainement dans un peu moins de 10 minutes savourer ce nouveau titre. 87e, 3-1 pour Manchester City donc face à West Ham qui, on le rappelle, West Ham n'avait plus rien à jouer, hein, sur cette dernière journée. Ça aide certainement pour concrétiser donc ce 10e titre de l'histoire pour les Sky Blues, mais pas question pour autant de faire participer tout le monde à la fête. Peut-être les joueurs qui ont un peu moins joué. Il y a eu un seul changement pour l'instant par Pep Guardiola, c'est Nathan Ake qui a remplacé Akanji. Sinon, donc, on garde la même ossature pour conserver ce score, ne pas se faire peur sur les derniers, sur la dernière minute, comme là avec ce débordement de Kudus et cette frappe en retrait qui va sortir en corner. 87e, donc 3-1 pour Manchester City face à West Ham.
Ouais, pendant ce temps-là, Arsenal n'y arrive pas. Edgar, on voit aussi les limites, hein, des Gunners dans cette fin de saison face à Everton. Hein.
Oui, 87e minute, un partout entre Arsenal et Everton. Domination dingue, hein, domination dingue depuis tout à l'heure d'Arsenal. Des occasions, on n'arrive même pas à les compter. Attention, l'occasion de Kai Havertz justement. Et une nouvelle fois, cette tête qui n'est pas cadrée. Vraiment, les occasions qui se multiplient. C'est incroyable qu'Arsenal ne soit pas devant quand on regarde la physionomie de cette seconde période. Mais j'ai envie de dire les regrets sur le titre, Flora, ils sont pas ce soir, hein. Ils sont surtout quand on regarde la période de décembre, la période du...
Ouais, la réduction de l'écart à l'Etihad Stadium pour West Ham. Aïe. Avec ce but dans une confusion là sur un corner pour West Ham. Je vous le disais, il y avait corner, c'est Souček, les Citizens réclament une main. Est-ce qu'il a... Ouais, il a clairement marqué de la main, là, Souček. Le Tchèque qui en effet va donc voir ce but annulé. Ouh, on a eu un frisson là qui a parcouru quand même l'Etihad Stadium.
Peut-être Guardiola qui est fou sur le bord de la
pelouse. Ils ont tout de suite réclamé la main, tous les Citizens.
En même temps, il met le but de la main là, clairement.
Il
n'y
a pas
dire,
photo en effet. Ça va donc faire toujours 3 buts à 1 pour Manchester City. Il restera 2 minutes dans le temps réglementaire de cette deuxième période.
Oui, et l'Emirates Stadium qui a réagi. Hein, tous les supporters ont célébré ça comme un but et ils risquent d'avoir une douche froide dans les prochaines secondes. Même les joueurs d'Arsenal, doivent sûrement penser que City est en danger face à West Ham.
Ouais, mais du coup, je vous entendais, c'est le son. Il y a jusqu'à 20 000 euros à gagner sur RMC. C'est le moment de vous inscrire en envoyant ROUE, R-O-U-E, au 732-16. Vous envoyez ROUE, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour participer. Edgar, tu nous disais que...
Le but pour Arsenal, ça fait 2-1 à la 89e. Et et si ce n'était pas terminé, Kai Havertz qui marque au but d'une action confuse, une contre-attaque éclair d'Arsenal, les supporters qui sont fous de joie et qui y croient maintenant. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer sur la pelouse de Manchester City. Ça fait 2-1 pour Arsenal face à Everton, 89e minute.
On va rappeler quand même la nécessité maintenant pour West Ham de marquer 2 buts face à Manchester City pour que Arsenal puisse être champion d'Angleterre. Il reste très peu de temps, Kevin, ça paraît quand même un peu improbable, surtout quand on voit la physionomie du match.
Ouais, il reste moins d'une minute même dans le temps réglementaire. Manchester City a fait du Manchester City 73% de possession, 12 tirs cadrés, 28 tirs au total sur le but d'Areola. Mais donc ce score de 3-1 qui pour l'instant suffit largement pour assurer ce 10e titre. Ça va être là, il y a une faute en fait sur Foden, dans le dos de Foden. Donc les Citizens ont en plus un coup franc au niveau du milieu de terrain. Donc a priori on va attendre combien de temps additionnel il y aura dans cette rencontre, mais pour l'instant dans le public de l'Etihad on est plutôt confiant.
Heureusement que ce but a été refusé de la main.
Ouais, parce que sinon... si avec le but d'Arsenal juste derrière, je peux te dire que la pression là, elle est montée grandement. Edgar, d'ailleurs, tu nous disais au sujet d'Arsenal que ce titre, ils l'ont sans doute perdu pendant la période qui est si importante en Angleterre, la période des fêtes et notamment le Boxing Day.
Ouais, exactement. Attention quand même, parce que le but est en train de vérifier à la VAR pour une possible main. Ouais, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y avait une période en décembre sur 5 matchs avec 3 défaites, 1 nul et une seule victoire. Quand on veut gagner la Première Ligue, forcément, c'est très compliqué. Là, l'arbitre qui est en train de regarder la VAR pour une possible main de Timber au début de l'action, mais voilà, Arsenal qui peut regretter ça, qui peut regretter sa défaite face à Aston Villa aussi, sa seule défaite en 2024 en Première Ligue. Voilà, ce sont des détails, et surtout cette période du Boxing Day. Flora, on en parlait avant le match, il y a cette fameuse citation de Ferguson qui dit: le titre de champion ne se joue pas au Boxing Day, mais il peut s'y perdre. Voilà, et là
on peut lui faire
Arsenal,
confiance. Il a un petit peu d'expérience.
Ouais, il a un petit peu d'expérience. Et là, Arsenal, effectivement, a perdu ce titre sûrement sur cette période-là. Le but est validé. Tout de même, pour Arsenal, ça fait 2-1 après 91 minutes de jeu.
Combien de temps additionnel à l'Etihad, Kevin?
5 minutes en plus accordées par Monsieur Brooks, l'arbitre de cette rencontre, pour donc cette fin de match. Peut-être, certainement, même le titre pour Manchester City. Vous disiez, quand Arsenal avait perdu ce titre, il faut dire que Manchester City n'a pas dominé toute la saison comme ça a pu être le cas précédemment. Ils ont été même rarement leaders en fait, les Citizens, mais ils ont profité des faux pas des autres pour passer leader là cette semaine en gagnant leur match en retard face à Tottenham. Donc ça n'a pas été une course tranquille, mais une course de fond pour les Citizens pour remporter ce 10e titre, le 4e de suite historique, performance historique dans l'histoire du championnat anglais, et le 6e en 7 ans pour Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Le ballon milieu de terrain avec Kovacic qui est entré en jeu, la passe de Foden qui a dû sortir après ce coup reçu dans le dos. Doku avec Rodri, le ballon avec Bernardo Silva au milieu de terrain du côté des Sky Blues. 92e, 3-1 pour Manchester City qui pour l'instant est donc champion d'Angleterre.
Ouais, et vous vivrez tout ça évidemment dans quelques instants dans Bartoli Time avec Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli. Moi je vais remercier Marion Hédalo et Tony Vérel d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Tony, de t'avoir avec nous dans l'intégral foot. On te retrouve bientôt évidemment sur RMC. Merci Marion, à la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Bartoli Time.